الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم bienvenue à tout le monde ce soir avec le dars de la prière du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Nous sommes le mercredi 6 Jumad al-Aula 1428 de l'Hégir, c'est-à-dire le 23 mai 2007, d'après le calendrier des chrétiens. Avant de commencer le nouveau, il se corrige. Ou bien il se corrige, ou bien il dit, Alhamdoulilah, c'est comme ça que j'avais compris. Voyez, premièrement, on parlait du sujoud. Quand quelqu'un maintenant, Il a relevé la tête du rukou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Supposons ça c'est la plus simple. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Il peut dire plus. Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Min as-samawati wa min al-ardi wa min ama baynahuma wa min ama shi'ta min shay'in ba'du. Et il continue encore. C'est plus long. Mais disons qu'il dise Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Maintenant, il va dire Allahu Akbar pour descendre. Quand il dit Allahu Akbar ici pour descendre, ce n'est pas de la sunna de dire Allahu Akbar d'en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire certains disent Allahu Akbar jusqu'à, et ils sont en train de le dire jusqu'à ce que leur tête touche le sol. On a dit que ce n'était pas ça de la sunna, ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète alayhi wa sallam disait Allahu Akbar, et il descendait. Et il descendait sans rien dire. Deuxièmement, on avait dit que l'avis le plus sûr, bi'idnillah ta'ala, c'est de dévancer les mains dans la descente. On ne descend pas avec les genoux d'abord, mais on commence par les mains. C'est les mains, bi'idnillah ta'ala, qui doivent toucher le sol après quoi? Avant les genoux. Non, c'est les mains bi'idhna ta'ala qui doivent toucher le sol avant les genoux. Et on avait donné, inshallah ta'ala, on avait donné quoi? On avait donné un dalil, les dalils yani pour cela. Une chose que j'avais oubliée, quand il est dans le ruku, hein, avant de descendre, quand il a dit Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, là-bas aussi, j'avais dit et donné les dalils que l'avis le plus sûr est de ne pas remettre les mains, la droite sur la gauche. C'est de ne pas les remettre, mais de les tendre comme ça, à droite et à gauche de notre corps. C'est l'avis le plus sûr. On avait dit pourquoi. On avait donné des dalils, inshallah ta'ala. Maintenant qu'il a dit Allahu Akbar, il est descendu. Maintenant, quand il va se prosterner, il doit remarquer des choses. Premièrement, il doit toucher, yani quand il est prosterné, il doit toucher le sol avec son nez, comme il touche le sol avec quoi? Avec son front. Car certaines personnes touchent seulement avec le front. Et ils lèvent un peu le nez, de façon à ce que le nez ne touche pas. Le nez ne touche pas le sol. Et ça, c'est faux. On a vu le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il fallait qu'on touche avec le sol le nez, comme on touche avec le sol notre front. Taïb. Autre chose, quand on fait le sujoud, j'avais montré que on ne le fait pas, on ne pose pas notre tête devant nos genoux, mais on va bien loin, on va bien loin de façon à ce que on sente que on a le buste qui est rallongé vers l'avant, et on a les bras écartés à droite et à gauche de nos oreilles ou bien de nos épaules, mais les bras écartés, et on ne fait pas le sujoud, on ne pose pas notre tête devant nos genoux, mais on va loin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prosternation, il levait les bras ne touchent pas le sol. Il lève les bras, masha'Allah, au point où les compagnons disaient, si un petit agneau voulait passer entre ses bras, il le ferait et il pourrait. Donc, quand tu poses tes mains, regarde comme ça à droite et à gauche. Regarde entre tes bras, est-ce que quelque chose, par exemple un petit chat, est-ce qu'il peut passer? Sinon, ça veut dire que tu as fait une faute dans ta prosternation. Peut-être que tu as fait une des deux fautes. Ou bien, tes bras sont en train de toucher le sol alors qu'il fallait les lever. Car les compagnons disaient, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prosternation, on voyait la blancheur de ses aisselles. Donc, pour que quelqu'un puisse voir tes aisselles, il faut que tu aies les mains, les bras bien levés. Si les bras touchent le sol, donc les aisselles sont fermées, on ne peut pas voir. Ça dit premièrement. Deuxièmement, la deuxième faute peut-être, et c'est sûr que c'est elle, c'est quoi? C'est que cette personne n'a pas fait le sujoud de loin, n'est pas allé vers l'avant. Elle l'a fait juste devant ses genoux. Quand on fait le sujoud devant nos genoux, c'est normal que nos bras, nos coudes déjà touchent. Nos coudes touchent notre poitrine et notre flanc, notre ventre. Alors que ça, c'est faux. Il faut que les coudes soient bien loin et qu'on lève les bras de façon à ce que un agneau puisse passer s'il voulait. Et j'ai toujours dit, je répète, c'est bien de répéter pour que ça s'ancre bien dans le cœur. Si tu veux voir si ta prosternation est juste ou n'est pas juste, mets-toi à 1,5 mètre, à 1,5 mètre de la sutra. Mets-toi à 1,5 mètre, par exemple, de l'armoire ou du mur ou là, en face de quel tu vas faire la prière. Mets-toi à 1,5 mètre quand tu es debout. Et quand tu poses ta tête, il faut qu'il y ait entre toi et l'armoire ou le mur seulement deux empans, seulement pour que puisse passer aussi un animal, un mouton par exemple. Donc tu vois que ta tête est très loin par rapport à tes pieds. Tes pieds sont à 1,50 mètre et ta tête maintenant est loin pour qu'elle aille devant la sutra et qu'il ne reste qu'un peu pour toucher la sutra. On ne fait pas comme les autres qui collent leur tête avec la sutra. Mais on doit laisser au moins deux empans pour que si un animal voulait passer, il pourrait. Mais quand on dit si un animal voulait passer, ça ne veut pas dire que c'est permis de laisser passer un animal. On ne laisse passer ni un animal, ni un bébé, ni un enfant, ni un chat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il faisait la prière, un mouton avait voulu passer entre lui et la sutra. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est vite déplacé vers l'avant et a collé sa poitrine, sa belle poitrine sallallahu alayhi wa sallam, il l'a collé contre le mur. Alors le mouton est passé derrière lui. Il n'a pas pu passer entre lui et la sutra. Et le prophète alayhi wa sallam n'a pas dit, celui-là c'était un animal, je m'en fous. Car il y a seulement l'âne et la femme qui a les menstrues et le chien noir qui coupe la salade. Donc celui-là c'est un mouton, laisse-le passer. On ne laisse rien passer si on peut entre nous et la sutra. Et là, une parenthèse aussi, certains gens disent que yani ça c'est la salade de l'homme, mais la femme elle ne doit pas comme ça yani s'allonger, etc. Et on a montré que c'était faux. Et que quiconque dit que la femme en général ne fait pas une adoration, une des adorations de l'islam, ne la fait pas comme l'a fait l'homme, il lui est demandé de faire venir le dalil. Le dalil qui a fait de la femme ici une particularité pour qu'elle n'imite pas l'homme. Où est le dalil? Naam. Dans toutes les choses, dans toutes les adorations, la femme fait comme l'homme à 100%, sauf s'il y a un dalil. Quand on a un dalil qui dit que la femme ici, par exemple, l'homme, par exemple, si l'imam se trompe, l'homme lui dit subhanallah. Et la femme, elle ne dit pas subhanallah. Elle claque des mains. Pourquoi on a dit ça? On a un dalil, on a un hadith qui dit comme ça. Si on n'avait pas le dalil, la femme devrait dire subhanallah aussi. Donc, tant qu'il n'y a pas de dalil, la femme, comme je viens de dire, fait la prière exactement comme l'homme. À partir de l'adhan et qu'amay on descend. Elle fait exactement la prière comme maintenant, sauf si elle est dans la rue, dans un jardin par exemple, il y a des hommes qui sont en train de la voir, etc. Quand elle fait la prosternation, elle se groupe un peu pour ne pas attirer le regard des gens et des hommes qui ont qui sont malades dans le cœur. Naam, elle doit un peu se couvrir et ne pas aller loin dans la prosternation. Ensuite, autre chose, j'avais dit que maintenant je dis des choses, je me rappelle des choses, je reviens en arrière. Maintenant je reviens un peu en arrière quand il a fait le rukwa, pas la prosternation, quand il a fait l'inclinaison. Et pardon, hein, des fois je suis à la prosternation, des fois je suis à l'inclinaison. Quand je me souviens des choses, je reviens pour ne pas les oublier. C'est très important. Quand il fait l'inclinaison, c'est-à-dire le rukwa, il dit Allahu Akbar et fait le rukwa. Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi, Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi, Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi. Dans le rukwa, c'est pas la peine de vous dire que son dos doit être avec ses jambes, il doit faire 90 degrés. C'est-à-dire si on posait un verre d'eau sur notre dos, l'eau ne devrait pas couler. Ne devrait pas couler. Si l'eau ne coule pas sur notre dos, ça veut dire qu'on a fait un bon rukwa. Et pour faire le bon rukwa, vous savez que on doit allonger le buste vers l'avant. On doit regarder à l'endroit où on va faire la prosternation. On ne regarde pas entre nos pieds, ni on regarde à l'avant, mais on regarde à l'endroit où on fait la prosternation. On fait rentrer un peu les épaules, on fait sortir un peu le buste, on fait sortir la poitrine et on rentre un peu les épaules pour pouvoir tendre le cou, pour que le cou ne soit pas à l'intérieur des épaules. On fait sortir le cou pour regarder à l'avant, c'est-à-dire exactement la place où on va faire le sujoud, afin que notre dos soit vraiment plat à 100%. Ici, ce qui est important de dire, c'est que quand il fait le rukou, ses mains, quand il les pose sur ses genoux, il pose les mains avec les doigts ouverts. Il ne doit pas fermer ses doigts. Les doigts ouverts, et c'est comme s'il tenait les genoux, agrippé aux genoux. C'est pas il les pose sur les genoux, mais il s'agrippe. C'est comme s'il voulait fermer avec ses doigts ouverts, il veut fermer sur les genoux. C'est comme moi, par exemple, je prends deux pommes, comme ça avec mes mains, regardez comment je fais, j'ouvre mes mains, et je les ferme pour prendre les deux pommes. La même chose, je m'agrippe à mes genoux. Maintenant, on revient au sujoud. Maintenant qu'il a fait le sujoud, il s'est prosterné, il a dit Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, trois fois, il a les mains bien écartées, il a les doigts fermés, les doigts fermés en direction de la Qibla. Les doigts qui sont à droite et à gauche des deux oreilles doivent être en direction de la Qibla. Parce qu'il y a certaines personnes qui font quoi? Qui font des doigts, ils opposent leurs doigts. Ils tournent la main droite vers la gauche, ils tournent la main gauche vers la droite. Comme ça, si tu le vois, d'en haut, tu regardes au-dessus de sa tête, tu trouves ses mains sont opposées, ses doigts sont opposés. Ça, c'est faux. Mais les doigts doivent être en face de la Qibla. En face de la Qibla. Et quoi? Et Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, même le pouce. Regardez, quand je mets mes doigts fermés en face de la Qibla, mes pouces, comment sont-ils? Mes pouces sont opposés. Mon pouce de la main droite est tourné vers la gauche. Mon pouce de ma main gauche est tourné vers la droite. Abdullah ibn Omar, même les pouces, il les faisait diriger vers la Qibla. Et pour faire diriger les pouces vers la Qibla, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu fermes les pouces. Yani, tu les colles à l'index. Naam. Tu dois les coller à l'index pour qu'ils soient dirigés vers la Qibla. Autre chose, naam. Maintenant qu'on a fait la prosternation, on a montré les mains. Il faut bien ne pas oublier de lever les bras pour que si un petit agneau veuille passer, pour qu'il puisse passer. N'oubliez pas, ça c'est très essentiel. Et autre chose aussi d'importante, quant aux pieds, nos orteils, les doigts des pieds, nos orteils doivent être dirigés vers la Qibla. Les orteils de tes pieds, comment qu'ils doivent être? Ils doivent être pliés. Hein, on les plie pour qu'ils soient dirigés vers la Qibla. Car si tu ne les plies pas, ils vont être dirigés vers quoi? Vers l'ouest. Car la Qibla est à l'est peut-être. Donc tes doigts sont vers l'ouest. Donc les orteils des pieds, tu fais de sorte qu'ils soient dirigés vers quoi? Vers la Qibla. Naam, eux aussi, ils doivent être dirigés vers la Qibla. Là, n'oubliez pas là que aussi les talons doivent toucher l'un à l'autre en faisant la sijda. Quand tu es dans la prosternation, tes pieds qui sont derrière toi, les talons, tu dois les fermer. Les talons doivent toucher l'un à l'autre. De quel côté ils touchent les talons? Ils touchent du côté intérieur. Regardez par exemple la cheville. On a deux chevilles. On a côté extérieur, côté intérieur. Côté intérieur, les talons doivent toucher. Et maintenant, les talons ont touché. Aussi, mes pieds, du côté des orteils, ils doivent toucher l'un à l'autre. C'est-à-dire, on ne laisse pas un vide entre nos pieds quand on fait la prosternation. Nos pieds qui sont derrière nous doivent toucher l'un à l'autre. Le talon avec le talon et le début du pied, pas le début des orteils. C'est impossible de faire toucher les orteils des pieds, droite et gauche. Mais les débuts des pieds, les débuts des pieds, du côté de l'index, du côté du grand orteil, un grand doigt, celui-là, il doit toucher l'autre côté. Voyez, autre chose, et la dernière des choses, on ne doit pas, pour un homme spécialement, il n'a pas le droit d'attacher ses cheveux. Il n'a pas le droit d'attacher ses cheveux, mais s'il les avait attachés auparavant, maintenant il va faire la prière, il doit dénouer ses cheveux, car chaque chose doit faire le sujoud avec lui. Et il y a un hadith d'Abdullah ibn Mas'ud où il dit que chaque cheveu qui touche le sol, tu as 10 récompenses, 10 hasanat, 10 récompenses avec chaque cheveu qui touche le sol, bi'idhnillahi ta'ala. Donc tout ça, c'était la révision. Maintenant, on commence, Allah ta'ala, le nouveau, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le titre, c'est quoi? De l'obligation d'être à l'aise dans le sujoud. Quand on fait le sujoud, c'est obligé, on est obligé d'être à l'aise. À l'aise, c'est-à-dire quoi à l'aise? Toma'nina, on doit attendre, bien attendre, tout en étant prosterné, bien attendre, que les os yani, soient dans leur place. Le prophète alayhi salatu salam ordonnait la bonne réalisation du ruku' et du sujoud. Comparons celui qui ne le fait pas à celui qui, affamé, mange une ou deux dattes qui ne lui profitent en rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé celui qui fait vite le sujoud comme quelqu'un qui a très faim. On lui donne une date ou deux dates. À quoi ça lui sert? Il est affamé. Ça ne lui sert à rien. De préférence, Wallahu a'lam, de préférence qu'il ne mange pas les deux dates. Pourquoi? Parce que ça va lui ouvrir encore plus l'appétit. Mais l'autre qui n'a rien mangé, c'est facile pour lui. Au moins, il dit, moi, j'ai pas encore goûté. Alhamdulillah. C'est pour ça qu'il peut tenir facilement. Alors, c'est comme s'il voulait dire, sallallahu alayhi wa sallam, ta prosternation ne t'a servi à rien. Comme les deux dates ne servent à rien pour un affamé, ta prosternation qui a été faite très vite ne t'a servi à rien. C'est comme si tu t'étais pas prosterné. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est en effet le pire des voleurs parmi les gens. Le pire des voleurs, comme j'ai dit une fois, ce n'est pas celui qui vole l'or, l'argent, les émeraudes ou les diamants. Mais le pire des voleurs, c'est celui qui a volé dans la salate. Allahu Akbar. La salate. La chose avec laquelle on différencie le croyant du musulman. D'après l'avis de beaucoup de ulama. La première chose sur laquelle on va être interrogé le jour de la rétribution. La première chose qui, les gens, lorsqu'ils vont aller en enfer, on va leur demander, qu'est-ce que vous faites en enfer? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait venir en enfer? Ils diront, on ne faisait pas la prière. Lam nakum min al-musallin. Subhanallah. Et ensuite, ils ont dit, lam nakum ta'im miskin, wa kunna nakhud ma'al kha'idin, wa kunna nukadhibu bi yawm al-din. Et à la fin, ils ont dit, et on n'était pas croyants. Ils n'ont pas commencé par, qu'est-ce que vous faites en enfer? On n'est pas croyants. Non, non, non. Ils ont commencé par la prière. Ils ont dit, on ne faisait pas la prière. Tellement c'est important la prière. Donc, cette prière, subhanallah al-azim, la personne va voler d'elle. Comment qu'elle vole la prière? En ne pas terminant le recours ou bien le sujoud. Non, en le faisant très vite. Et on ne pas, sans rester Yani entre les deux sujda par exemple, au lieu de rester jusqu'à ce que les os reviennent vers leur place, ou bien quand il se lève du rukwa, il dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Au lieu d'attendre que les os rentrent dans leur place, il descend directement. Sami Allahu liman hamida, Allahu akbar. Il descend, il n'attend pas. Il n'attend pas que les os rentrent dans leur place. Celui-là, c'est un voleur. Et c'est le pire des voleurs, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani je dis que celui-là, s'il avait volé de l'argent, ça aurait été moins grave peut-être. Mais voler de la prière, a'oudoubillah, c'est quelque chose de très grave. Il statua, le prophète alayhi wa sallam, statua aussi que, pardon, vous m'écrivez numéro 1, statua aussi que la prière de celui qui ne redresse pas pleinement sa colonne vertébrale dans le rukou' et le soujoud n'est pas valide. Subhanallah al-Azim, elle n'est pas valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a statué, et quand il statue une chose, personne ne peut y aller à son encontre. Il a statué quoi? Que toute personne qui ne redresse pas pleinement sa colonne vertébrale dans le rukou' et dans le soujoud, que sa salat n'est pas valide. Naam. Quel est le dalil? Vous connaissez, celui qui faisait la salat incorrecte, dont on a parlé plusieurs fois, et qui, avec sa mauvaise salat et sa mauvaise façon de faire la salat, est devenu un exemple. Hein, on dit Moussi ou fi salaté. Celui-là, trois fois, il a fait la prière devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sans être à l'aise, sans terminer pleinement le rukou' et le sujoud. Et trois fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: refais la salat, tu n'as pas fait la prière. Refais la prière, tu n'as pas fait la prière. Refais la prière, tu n'as pas fait la prière. Subhanallah. Il descend, il lit, il fait le rukou', il fait le sujoud, il dit subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Et le prophète lui dit, alayhi salatu wasalam, tu n'as pas fait la prière. Naam. Tu as fait quoi? C'est comme si on peut dire, tu as joué. Naam. Tu as fait du sport. Tu as fait un peu d'échauffement pour faire le karaté et le judo. Tu n'as pas fait la prière. Naam. Pour faire la prière, il faut la faire comme Allah Ta'ala l'a demandé et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a légiféré. C'est pas nous qui faisons la prière comme nous voulons. On la fait comme elle est légiférée, ou alors on ne la fait pas. Mais on ne joue pas avec la salat. Je ne suis pas en train de parler du compagnon radiallahu ta'ala anhu. Je parlais de nous, yani en général. On ne joue pas avec la salat. Ou bien on la fait comme il nous a été ordonné de la faire, ou alors on ne la fait pas. Non, on ne joue pas. Al-Muhim, maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire dans le sujoud? Dans cette position, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait différents appels, rappels et invocations parmi les suivants. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit? On dit Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Trois fois. Inch'Allah ta'ala, c'est, je pense, le doua le plus court. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Et je vous ai dit une fois, qu'on dit Subhana Rabbi al-A'la, c'est-à-dire on atteste et on statue que Allah Ta'ala, c'est le plus haut, il est le plus élevé. On le dit où? On le dit quand on est nous dans la position la plus basse. Naam. Pour prouver que plus toi tu es bas et vil, et tu descends ta tête au plus bas, plus Allah est plus haut, au-dessus du trône, élevé au-dessus du trône. Naam. Toi, quand tu es en bas, subhanallah, tu reconnais qu'il est en haut le plus haut. Subhanallah, c'est ça la hikmah. C'est pour ça que dans le rukou', on ne dit pas subhanallah, mais on le dit dans le sujoud. Quand on est dans la position la plus basse, on atteste que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus haut. Naam. Comme est parfait mon Seigneur le plus haut. Comme est parfait mon Seigneur le plus haut. Trois fois. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait plus que cela. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait plus que cela. Naam. Nous, on a pris l'habitude que le maximum c'est trois fois. C'est pour ça que si on dit trois fois, masha'Allah, on sent que on a fait quelque chose, yani masha'Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois répété, plus de trois fois. Tu peux répéter 5, 10, 15, 30, 50 fois. Répète, répète, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Répète, tant que tu peux. Pardon, tant que tu... Non, si tu veux plus, plus. Si tu veux t'arrêter à 3, tu t'arrêtes à 3 et tu fais les doigts. Car c'est un endroit où quoi? C'est un endroit où il est demandé de faire beaucoup de doigts. Beaucoup de doigts, comme on va le voir, yani, inshallah ta'ala, dans ce dars. Mais c'était juste pour dire que on peut dire plus de trois fois Subhana Rabbi al-A'la. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta tellement Subhana Rabbi al-A'la dans son sujoud que il était presque aussi long que lorsqu'il était dans la position debout, où il avait récité trois longues sourates, Al-Baqara, Al-Nisa, Ali Imran. Allahu Akbar. Vous avez compris, vous avez entendu avec moi. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prosternation, tout en étant prosterné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Combien de fois il est resté en train de dire Subhana Rabbi al-A'la, exactement comme il est resté, yani le même temps, comme il est resté en train de réciter le Coran. Et combien qu'il était resté en train de réciter le Coran? Il a lu toute Al-Baqara, ensuite toute Sourate An-Nisa, ensuite il est revenu, il a lu toute Sourate Ali Imran. Dites-moi, combien ça prend quand quelqu'un va lire Al-Baqara, comme ça avec Tirtil, ensuite il la termine, il rentre dans Sourate An-Nisa, il la termine, il rentre dans Sourate Ali Imran. Combien ça prend? Je pense, Allahu A'lam, au moins 10 ans, 2h30, 3h, pour lire ces trois Sourates. Au moins. Imagine maintenant. Quand tu dis Subhan Rabbil A'la, tu le dis pendant 3 heures sans lever la tête, dans une seule prosternation. Tu restes 2 heures et demie ou la 3 heures en train d'être prosterné. Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. C'est sûr que ça, tu vas commencer normalement en disant 3, 4, 5, 6, ensuite 10, 15, 20. Ensuite, c'est sûr que tu vas sentir un khushu' dans ton cœur et c'est sûr que tu vas pleurer et que tu vas sentir des choses que beaucoup de gens ne sentiront pas. C'est sûr. Non. Et surtout si tu le dis non pas par habitude, mais tu vas le dire vraiment en ressentant yani, en méditant sur ce que tu dis. Naam, et tu sens que ça sort de ton cœur, ça sort de ton cœur, c'est sûr que ça va se transformer en grand khushu' et en pleurs, c'est sûr. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, subhana rabbi al-a'la. Deuxièmement, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. On ajoute seulement wa bihamdih. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih. Trois fois. C'est-à-dire, comme est parfait mon Seigneur, le plus haut, loué soit-il. Comme est parfait mon Seigneur, le plus haut, loué soit-il. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, troisièmement? On peut dire Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Wurruh. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Wurruh. Celui-là aussi, on peut le dire quand on est prosterné. Et il y a aussi des doigts où on peut le des preuves où on peut le dire aussi quand on est yani, raka, quand on est dans le ruku. Oum Youssef, tu es un peu en retard, où est-ce que tu as été? Tayyib, khair inshallah. On est au troisième doua. Je disais, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Wurruh. On dit ce doua, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Wurruh. On peut le dire à la place de quoi? À la place de Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Quatrièmement, il y a 9 ou 10 doua. Je vais vous dire seulement 4 ou 5 et les autres seulement les lire très vite. Naam. Wesmak Om Youssef, quand il ne veut pas copier, quand tu cliques à droite, c'est écrit en anglais, il a dit Freezy Display for Copy. Freezy a dit Display for Copy. Tu cliques sur ça, là, ensuite tu peux copier, Inch'Allah Ta'ala. Al-Mohim. Astaghfirullah wa atubu'ilayh. Quatrièmement, on peut dire aussi Subhanakallahumma Rabbana. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik. Allahumma khfirli. Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma khfirli. C'est-à-dire, comme tu es parfait, ô Allah, notre Seigneur est loué sois-tu. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, pardonne-moi. Il le disait souvent dans son ruku' et son sujoud, mettant ainsi en application l'ordre du Coran. L'ordre du Coran. Naam. Tayyib. Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik. Allahumma ghfirli. Naam. Maintenant, cinquièmement, sixièmement, septièmement, huitièmement, neuvièmement, dixièmement, il y a jusqu'à douzièmement. Je vais lire seulement en allant vite, en allant vite. Pourquoi je lis? Je vous l'ai dit une fois. Pour que ceux qui peut-être disent un de ces doigts, sachent que ça se dit. Si je ne vais pas la lire, peut-être certains vont dire, donc il n'y a que ces quatre doigts. Non, il y en a beaucoup. Je vais les lire comme ça très vite. Pour que ceux qui lisent un de ces doigts sachent que, Inch'Allah ta'ala, ça se lit. Cinquièmement, اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم سبحان الله العظيم. Est-ce qu'il est écrit aussi en français? Une seconde. نعم فتبارك الله أحسن الخالقين. Sixièmement, اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. نعم تكريسي صح. Il disait aussi سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي هذه يدي وما جنيت على نفسي. Il disait aussi سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Il disait aussi neuvièmement, il disait سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Il disait aussi اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. C'est dixièmement. Onzièmement, اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل لي في سمعي نورا واجعل لي في بصري نورا واجعل لي من تحتي نورا واجعل لي من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. دوزيامون سي ديرنييرمون جو كوغ سي ديرنييرمون. نعم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم توسا Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les disait dans le sujoud. Naam, ce doua est très simple. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant. Regardez ce doua, il est très simple. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant. Le titre c'est quoi maintenant? Le titre de l'interdiction de réciter le Coran dans le sujoud. L'interdiction de réciter le Coran dans la sujoud, dans le sujoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait la récitation du Coran dans le ruku' et dans le sujoud et ordonnait de s'efforcer de faire beaucoup de doua lors de ce pilier, comme expliqué dans le chapitre du ruku'. Naam. Il est interdit de lire le Coran dans le sujoud et dans le ruku'. Mais, au contraire, il est très recommandé de faire quoi? De faire des doua dans le sujoud. Le prophète alayhi sallam a dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. C'est-à-dire, le serviteur n'est jamais aussi proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné. Alors, implorez Allah abondamment durant vos prosternations. Non, beaucoup de gens, quand ils font la prosternation, ils se suffisent à Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdi, ils ne font pas de doua. Et certains ont même des doutes. Ils disent que peut-être qu'il n'est pas permis de faire le doua. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, il n'y a pas un endroit où tu es plus près de Allah subhanahu wa ta'ala comme lorsque tu es prosterné. Car tu as reconnu que tu es très bas et qu'il est le très haut. Il a dit donc, profitez, yani, aktiro. Faites abondamment de doua. Et les doua, avant de commencer le doua, on fait aussi la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu fais le doua de tout ce que tu veux. Le doua de je suis malade, Allahumma guéris-moi, je suis pauvre. Allahumma enrichis-moi, je suis faible. Allahumma rends-moi fort. Et comme ça, je suis célibataire, marie-moi. Et comme ça, tu fais tous les doigts pourvu que ce ne soit pas des doigts de haram, pourvu que ce ne soit pas des doigts qui sont haram. Tous les autres doigts, bi'idna ta'ala, sont bi'idna ta'ala permis. Et les meilleurs doigts, bien sûr, ce sont les doigts qui ont été dits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sait cela. Personne ne peut faire un doua mieux que le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, il est permis de faire des douas personnels. Allahumma, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider mon père. Je demande à Allah ta'ala de guider mes enfants. Je demande à Allah azza wa jalla de m'ajouter dans la guidée. Je demande à Allah azza wa jalla de m'éveiller de mon sommeil. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'éloigner des innovateurs. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider pour faire la hijra, pour ne pas mourir dans un pays de kuffar. Naam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir mon cœur et celui de mon mari pour qu'il ne tombe pas dans les fitnas. Et comme ça. Naam. Et au point où, je crois que vous connaissez ce hadith, je ne l'ai pas devant mes yeux, mais il est authentifié par Cheikh Al-Albani. C'est un hadith où il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit Allah subhanahu wa ta'ala devient en colère, naam, quand on lui fait pas de doua. Subhanallah, regardez. Allah ta'ala, quand vous lui demandez pas quelque chose, donne-moi ceci, donne-moi cela, il devient en colère. Alors que les gens, quand on leur demande une chose, ils deviennent en colère. Les gens, quand tu dis à quelqu'un, prête-moi de l'argent, c'est pas donne-moi, prête-moi, peut-être qu'il ne veut pas, il s'énerve, peut-être. Allah Ta'ala, c'est le contraire. Quand tu lui demandes pas, il se met en colère. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu demandes pas à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, astaghfirullah du mot que je vais dire, mais c'est juste pour que vous compreniez. C'est comme si tu voulais dire, yani, je n'ai pas besoin de lui. Non, je me suffis à moi-même. Pourquoi lui demander des choses? Moi, pourquoi je demande aux gens qu'ils me donnent des choses? Parce que j'en ai pas. Maintenant, j'ai tout. Pourquoi je demande à Allah de me donner des choses? Astaghfirullah, juste pour que vous compreniez. Mais, en principe, plus tu as d'argent, plus tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que yani, tu es pauvre par rapport à son dîn et par rapport même à ce qu'il a, par rapport au trésor qu'il a, même si tu as tout l'argent du monde, tu es pauvre. Et tout le temps, on montre qu'on est pauvre yani, et qu'on a beaucoup besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa guidée et qu'il soit avec nous et qu'il ne nous laisse pas seuls et comme ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il laisse une personne seule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le shaitan qui va te seconder. Naam. Ou bien c'est Allah ta'ala qui aide quelqu'un, il le guide, il le dirige, il raffermit son cœur. Ou bien cette personne fait des péchés, ou bien ne fait pas des doigts et veut montrer qu'elle n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala s'éloigne de cette personne et c'est le shaitan qui va venir seconder cette personne pour l'égarer et la faire rentrer à Jahannam en faisant des péchés ou l'ayyadu billah. Donc comme je disais, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on lui fera du doua, il n'aime pas, il se met en colère. Naam. Plus tu montres ton attachement et ta pauvreté à Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi. Il est ravi de toi. Tayyib. Faire durer le titre. Faire durer, c'est-à-dire faire prolonger le sujoud. Faire prolonger le sujoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait la sijda presque autant que son rukou'. Et parfois même, il la faisait durer, la prosternation, il la faisait durer au point qu'un jour, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani on va parler de comment qu'il a fait durer, il a fait durer bi'idhnillah ta'ala sa sijda jusqu'au point où je vais yani, le raconter maintenant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a rejoint pour une des deux prières de l'après-midi, al-dhuhr ou asr, c'est-à-dire il a oublié. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rejoint pour une des deux prières de l'après-midi, al-dhuhr ou l'asr, ou bien l'asr. Pourtant qui? Pourtant al-Hassan ou al-Hussein. Il a dit, Allah, je ne me rappelle pas bien, mais il portait l'un des deux, ou bien al-Hassan ou bien al-Hussein. Et on a montré une fois que entre al-Hassan et al-Hussein, il y avait quoi? Il y avait une année de différence. On avait montré que ce n'était pas des jumeaux. Il y avait une année de différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança alors et le posa. Il posa qui? Hassan ou al-Hussein? Il le posa près de son pied droit. Il le posa près de son pied droit. Ensuite, qu'est-ce qu'il fit? Il fit le takbir. Il a dit Allahu Akbar. Et débuta la prière. Pendant celle-ci, pendant la prière, il exécuta une très longue prosternation. Pendant la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, quand il s'est prosterné, il a fait une très longue prosternation. Alors le compagnon, radiallahu ta'ala anhu, qui raconte l'histoire, a dit aussi, j'ai levé ma tête au-dessus des autres, c'est-à-dire parmi tous les autres, moi j'ai levé ma tête. Pourquoi il a levé sa tête? Il a dit tellement la prosternation était longue, yani, ça m'a étonné, je me suis dit sûrement il s'est passé quelque chose. Il a dit j'ai levé la tête pour voir qu'est-ce qui se passait. Alors j'ai trouvé que l'enfant, c'est-à-dire Hassan ou bien Hussein, radiallahu ta'ala anhum, était sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, qui était prosterné. Il a dit alors je suis revenu à ma prosternation. Maintenant j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai assouvi ma curiosité. Maintenant, alhamdoulilah, je me reprosterne. Il s'est reprosterné. Alors, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eut terminé la prière, quand il a terminé la prière, les gens lui dirent, tout en étant étonnés, les gens ont dit, ô messager d'Allah, ô prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au milieu de ta prière, tu as exécuté une prosternation. Et tu l'as tellement rallongée, que nous avons pensé que quelque chose s'était produit. C'est-à-dire, astaghfirullah, nous avons pensé que tu étais mort. Tellement la prosternation était longue, on s'est étonné. Je me suis dit, peut-être qu'il est mort tout en étant prosterné. C'est pour ça qu'il a levé la tête, et subhanallah, il a regardé ce qui s'est passé, ensuite il s'est reprosterné. Alors il a dit, on a dit, ou bien quelque chose s'est produit, ou bien tu recevais la révélation, ou bien Jibril te donnait la révélation. Qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ni l'un ni l'autre. En réalité, mon fils, Hassan ou al-Hussein, radiallahu ta'ala anhum, m'avait pris comme monture, et je n'ai pas voulu le brusquer jusqu'à ce qu'il satisfasse son souhait. Allahu Akbar. Regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prosterné, son fils, son petit-fils, se met sur son dos et le prend comme monture. Comme on prend nous, on monte sur un cheval par exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement, regardez bien, non seulement ne le fait pas descendre de son dos, mais pire encore, il rallonge la prosternation pour lui faire plaisir. Et il est resté comme ça, un quart d'heure, une demi-heure, ou je ne sais pas combien. Au point où le compagnon s'est étonné, il a levé la tête. Il a dit, moi je vois qu'est-ce qui se passe. Il a levé la tête, ensuite il est revenu à la prosternation. Alors regardez, et ça s'est passé où? Ça s'est passé dans la mosquée, c'est pas dans la maison. Maintenant les gens, les femmes, etc., qui connaissent pas le din, les vieux et les vieilles, dans la maison, ils permettent pas à un bébé de monter sur le dos, dans la maison. Alors qu'en est-il dans la mosquée? Dans la mosquée, sûrement qu'ils iraient au commissariat pour faire venir la police, pour dire il y a un enfant qui est rentré dans la mosquée aujourd'hui. Non. Alors que plus grave que cela, enfin grave pour les ignorants. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait ou même la fille de sa fille Zainab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quatre filles. L'une d'entre elles s'appelait comment? Zainab. Il prenait sa fille qui s'appelait Umama et il la mettait sur son cou, un pied à droite, un pied à gauche, et elle assise sur son cou. Ensuite, il tient avec sa main droite sa main droite à elle, avec sa main gauche à elle, et il fait la prière en guidant les gens. En guidant les gens, Allahu Akbar. Imaginez que moi je rentre à la mosquée, moi qui suis imam, je rentre à la mosquée, si j'avais une petite fille ou là, la fille de mon voisin ou là, je la mets sur mon cou et je leur dis, yani, préparez-vous, je vais dire Allahu Akbar. Préparez-vous pour faire la prière. Je suis sûr que personne ne ferait la prière derrière moi. Sauf s'il y a des talibou ilm, c'est tout. Mais que la plupart des vieux, etc., ils sortiront de la mosquée et ils ne reviendront jamais dans cette mosquée. Et que le lendemain, tous les journaux de la ville, je me trouverai en première page photographiée. Le imam de telle ville, yani, avec une fille sur ses épaules, a guidé les gens. L'une des plus grandes innovations de l'islam. On n'a jamais entendu ça chez nos aïeux, nos grands-pères. L'imam vient de faire la plus grande bida qui n'a jamais été faite en islam. Non, tout ça, comme on dit en arabe, comme on dit le proverbe qui est très connu, ils disent Jahilu shay'i yu'adih. Celui qui ne connaît pas la chose, il devient son ennemi. Non, celui qui ne connaît pas la chose, il devient son ennemi. Pour que je connaisse que ça c'est une sunna, pour que je l'accepte. Sinon, je deviens l'ennemi de cette sunna. Pourquoi? Parce que je suis ignorant. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Non. Il a dit, s'ils ne peuvent pas être guidés avec, ils vont dire ça c'est un mensonge, un vieux mensonge. Il a dit aussi dans le Coran, un verset qui ressemble un peu à celui-là, une seconde, il a dit ils ont démenti de la chose qu'ils n'ont pas pu comprendre. À peu près c'est comme ça. Non. Celui qui n'arrive pas à comprendre une chose, il dément. Il dit non, ça c'est une bid'a, ça c'est pas vrai, etc. Al-Muhim, où est-ce qu'on était? Non. Une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière, toujours la prière à la mosquée, quand Al-Hassan et Al-Hussein grimpèrent sur son dos. Et alors, quand des personnes voulurent arrêter Al-Hassan et Al-Hussein et les faire descendre du dos, il leur fit signe, alayhi salatu salam, de les laisser avec sa main comme ça. Il est décédé sur mon dos. Après la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il les prit sur ses genoux et il dit, celui qui m'aime aime ces deux-là. Si tu vraiment tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois aimer ces deux-là. Donc les chiites ici, c'est un hadith qui brise le dos des chiites. Les chiites, les menteurs, les ignorants, hein, qui adorent avec Allah, adore le Hussein et qui aime le Hussein plus que le prophète, plus que Ali, plus que, au point aussi si un chiite tombe, il dit pas Ya Allah, ou bien Ya Sittir, il dit Ya Hussein. Astaghfirullah wa la'adhu billah. Les chiites, ce hadith brise leur dos. Pourquoi? Car le hadith a dit celui qui m'aime, qu'il aime ces deux, le Hassan ou le Hussein. Mais les chiites n'aiment pas le Hassan, ils aiment seulement le Hussein. Naam. Un chiite, tu lui dis le Hassan, il laisse tomber, alors que c'est le frère de Hussein, mais il n'aime que le Hussein. Pourquoi il n'aime pas le Hassan? Parce qu'il a laissé le gouvernorat à Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont dit celui-là, donc on lui donne pas d'importance, classe, c'est le frère, etc., mais on l'aime pas, mais on aime seulement le Hussein. Non. Le titre maintenant, du mérite du sujoud, du mérite du sujoud. Donc pour les femmes, surtout pour les femmes qui ont un bébé qui marche comme ça, yani, sur quatre pattes, etc., ce n'est pas un problème que toi tu fasses la prière et que lui il est sur ton dos. Non, il est en train de jouer sur ton dos, tout ça c'est pas un problème. Ne le laisse pas seulement passer entre toi et la sutra. Laisse-le sur ton dos jouer bi'idna azza wa jal comme on joue sur une monture. Naam. Surtout s'il sort pas beaucoup, il va pas au manège, alors fais-lui le manège quand tu fais la prière, laisse-le un peu joué sur le dos bi'idhna ta'ala pour que tu fasses la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, qu'est-ce qu'il disait? Il n'est personne parmi ma communauté que je ne reconnaîtrai pas au jour de la résurrection. Il n'y a personne de ma communauté que je ne vais pas reconnaître le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, il y aura des millions seulement de la communauté, de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment qu'il va les reconnaître ceux-là? Comment qu'il va les reconnaître? Alors ils lui demandèrent, comment les reconnaîtras-tu, ô messager d'Allah, parmi la multitude de créatures? Ce jour-là, il y aura des milliards de gens qui vont venir. Imaginez, depuis Adam, que la paix soit sur lui, jusqu'au dernier qui va vivre. Combien qu'ils seront? Des milliards et des milliards et des milliards. Alors ils se sont étonnés. Comment, ya Rasulallah, vas-tu reconnaître yani, ta communauté? Il a dit, regardez comment il donne les exemples, il a dit, ne voyez-vous pas que quand l'un d'entre vous pénètre dans une enceinte, quand l'un d'entre vous pénètre par exemple dans une écurie où il y a des chevaux, dans laquelle se trouve un coursier, un cheval noir 100%, un cheval noir qui n'a aucune tache blanche, noir comme du charbon. Là, on rentre dans une écurie, il y a un cheval noir car il n'a aucune tache hors le noir, aucune tache. Non. Et il y a un cheval devant lui avec le front et les jambes blanches. Il a dit, alors reconnaîtriez-vous ce dernier du premier? Ou là c'est difficile? C'est difficile ou là c'est facile? Celui-là il est tout noir et celui-là il a les jambes et le front qui sont de couleur blanche. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Naturellement, on reconnaît vite celui qui a les taches. Il a dit, ainsi les gens de ma communauté, ce jour-là, auront certainement des visages blancs. Naam, en raison du sujoud, et ainsi que la blancheur des ablutions. Naam. Donc, le jour de la résurrection, le jour de la rétribution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaîtra sa nation et ceux qui l'ont suivi, il les connaîtra très vite à cause des taches qu'ils ont yani, dans les parties où ils faisaient les ablutions et dans sur le front sur le, avec lequel ils faisaient le sujoud. Naam, le jour de la résurrection, très vite, dès que tu vois, tu regardes à droite à gauche, tu vois les gens seulement. Celui qui porte ces taches-là, c'est quelqu'un de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est quelqu'un, mashallah, qui faisait la salat. Et celui qui ne porte pas ses tâches, ou bien n'est pas de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il est de sa nation mais il ne faisait pas la prière, c'est très grave pour lui. Car s'il n'est pas de sa nation, il peut rentrer au paradis avec la nation de Ibrahim ou la de Moussa alayhi salam. Mais s'il est de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne porte pas ses tâches pour être distingué, ça veut dire tout simplement qu'il ne faisait pas la prière. Il ne faisait pas la prière. C'est très 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 grave. Naam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wasalam, d'ailleurs, vous connaissez, que vous savez qu'il y a un verset. Allah Ta'ala a dit, Yawma tabyadu wujuh wa tuswaddu wujuh. C'est un verset. Yawma tabyadu wujuh wa tuswaddu wujuh. Fa'amma alladhina suwaddat wujuhum. Pardon, j'ai oublié comment le verset. Je crois que c'est le contraire. De toute façon, Abdullah ibn Abbas a dit ici, tabyadu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. C'est comme ça qu'a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Les visages de qui? Yani ceux qui vont être noirs et ceux qui vont être blancs. Les visages de la sunnah ou le jama'a seront blancs. Naam. Et les visages de ceux qui faisaient des bid'ah et ceux qui étaient des innovateurs seront noirs, ils seront noirs, naam. Mais ils auront le visage blanc, masha'Allah, naam. Comme a dit Ta'ala, Abdullah ibn Shtarajib, يوم تبيض وجوهن وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم. سي آلي عمران. سي آلي عمران أن بو ميليو. أن بو ميليو. بصورة آلي عمران. المهم. دونك نعم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un autre hadith, a dit dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand Allah veut pardonner, c'est-à-dire couvrir de miséricorde, une personne qu'il a choisie parmi les gens du feu, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a vu déjà une fois, j'ai dit que ça allait venir dans les prochains doros, Allah ta'ala fait aussi l'intercession. Allah ta'ala, comme les anges, comme les croyants, comme les prophètes, Allah ta'ala a aussi l'intercession le jour de la rétribution. Maintenant, les gens sont en enfer. Non. Allah ta'ala veut faire l'intercession pour faire sortir certains gens de l'enfer. Il a dit, alors il commande aux anges de faire sortir ceux qui adoraient Allah. Ainsi, ils seront amenés, comment ils sont reconnus? Reconnus par les marques du soujoud. Ils seront reconnus par les marques du soujoud. Les anges vont rentrer en enfer et vont voir chaque personne qui a les marques du soujoud, elle sera reconnue. Et elle sera, Inch'Allah ta'ala, ils vont la faire sortir de l'enfer. Car Allah a interdit au feu de dévorer les marques du soujoud. Ceux-là donc seront sortis du feu, car le feu dévore tout le fils d'Adam, excepté les marques du soujoud. 528. Bukhari Muslim. Naam. Le feu dévore tout le fils d'Adam, sauf les marques du soujoud. Subhanallah l'adim. Ici, Cheikh Al-Albani a dit, le hadith montre que les pécheurs parmi les musulmans n'éterniseront pas en enfer. De même, ceux qui auront manqué à leur prière par paresse, ceux qui n'ont pas fait la prière par paresse, ne resteront pas dans le feu pour toujours. Il a dit, c'est authentique. Voir Silsila Sahiha, numéro 2054. Dans le livre Silsila Sahiha, hadith numéro 2054, Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, a donné des dalils à celui qui ne faisait pas la prière, mais par paresse seulement, qu'il sortirait à la fin de l'enfer et irait au paradis bi'idhn azza wa jal. Naam. Ensuite, on va terminer avec cette chose. Naam, on va terminer avec cette chose. Le sujoud sur la terre et sur la natte. Le sujoud sur la terre et sur la natte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se prosternait souvent à même la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il se prosternait directement sur la terre, c'est-à-dire sans poser quelque chose, sur le sol directement. Non, sur la terre. Il, sallallahu alayhi wa sallam, se prosternait sur. Non, ses compagnons, radhiyallahu ta'ala anhum, priaient avec lui dans une intense chaleur. Une fois, ses compagnons qui priaient avec lui dans une intense chaleur, quand l'un d'entre eux ne put plus tenir son front contre la terre, tellement yani, la terre elle était chaude, le sol était chaud, il n'a pas pu yani, laisser son front sur le sol. Alors il étala son vêtement sur le sol et se prosterna dessus. Rawah Muslim et Abu Daoud. Non, quand on se prosterne, ensuite, par exemple, c'est tellement chaud, on met quelque chose, on prend quelque chose, on la met, un vêtement là, et on la met entre nous et le sol. Ou là, c'est tellement froid, ou là, c'est tellement mouillé, ou là, on met quelque chose entre nous et le sol. Et le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la terre entière a été faite un lieu de prière, masjid, et une purification pour ma communauté. Ainsi, partout où l'un d'entre vous est surpris par l'heure de la prière, il a quoi? Il a son lieu de culte, masjid, et sa purification, taymoum, près de lui. Alors que ceux d'avant moi pensaient que c'était trop. Ils ne priaient que dans leurs églises et synagogues. Ahmed et Bayhaqi avec Sanad Sahih. Donc nous, on a l'avantage de quoi? L'avantage que on peut prier partout. Ceux d'avant ne pouvaient prier que dans des endroits spécialement aménagés pour la prière. Masha'Allah, moi je fais un voyage, je veux aller d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, je ne sais pas moi, j'arrête en pleine route, surtout si j'ai avec moi une petite montre comme ça qui s'appelle la boussole. Il y a une petite boussole comme ça qu'on vend en Arabie Saoudite, etc., qui te montre la Qibla. Tu lui dis seulement où tu es. Si tu es par exemple à Marseille, elle tourne comme ça, etc. Donc tu la places et alhamdoulillah, il n'y a pas d'eau. Tu prends le sable ou un caillou ou la terre et tu fais le taïmoum et le problème est réglé et la salate est valable à 100%. Alors qu'autrefois, on ne pouvait pas faire la salate, il fallait aller chercher, est-ce qu'il y a une église ou est-ce qu'il y a un synagogue. C'est, alhamdoulilah, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est dans la fin de l'Baqara, Amen al-Rasul Biba, jusqu'à ce qu'il a dit, attendez que je me rappelle de la fin de l'Baqara. La fin de l'Baqara, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه. نعم، مي سي با سا سكو جو فو، جو فو يعني ان فيرسي دو لا فان، وي لا دي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. سو كي تي افون نو افي يعني beaucoup de difficultés par rapport à nous, dans beaucoup de choses. Par exemple, ceux qui étaient avant nous, au temps de Moussa alayhi salam, par exemple, les enfants d'Israël, etc., celui qui avait une tache d'urine sur un vêtement, il devait couper le vêtement. Naam. Si tu as une tache de souillure, urine ou là, autre chose, sur par exemple une partie du vêtement, tu dois prendre les ciseaux ou là, je ne sais pas quoi, et couper la partie où il y avait l'urine. Alors que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Juste un peu d'eau. Et tu es sort comme ça, c'est terminé. Tu gardes ton vêtement bi-idna azzawajal. Et donc il y avait beaucoup de difficultés autrefois. Allah azzawajal nous a beaucoup, beaucoup facilité. Walhamdulillah. Bon, pour terminer, parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait sur la boue et l'eau. Sur la boue et l'eau. Et ceci arriva une fois à l'aube, salat subh, lors de la 21e nuit du Ramadan, quand il plut et le toit de la mosquée, qui était fait de branches de palmier, s'est découvert. Non, imaginez, le toit, c'était des palmiers, il s'est découvert, la pluie est tombée sur le sol, est tombée sur le sable, etc. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné de l'eau et de la boue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors se prosterna sur l'eau et la boue. Abu Sa'id al-Khudri a dit, radiallahu ta'ala anhu, ainsi j'ai vu de mes propres yeux le messager d'Allah, des traces de boue et de l'eau sur son front et sur son nez. Sur son front et sur son nez. Al-Bukhari et Muslim. Naam. Si ça te vient comme ça une occasion de te prosterner sur la terre, fais-le. Naam, fais-le. C'est pas spécialement je suis dans, je ne sais pas, où je suis dans un jardin, ou là je suis. Et il me faut toujours un tapis. Subhanallah al-Azim. Il me faut toujours un tapis. Déjà le tapis, déjà d'accepter de mettre le tapis sur le sable, pour certains, c'est déjà bien. Sinon, peut-être qu'ils vont dire, à la place du sable, je vais d'abord mettre la dalle de sol. D'abord la dalle de sol, ensuite le tapis. Non, j'accepte pas le tapis sur le sable. J'exagère, bien sûr. Mais pour vous dire qu'il y a des gens qui classent en le ouest. Il ne peut jamais, au grand jamais, mettre son front sur la terre et sur le sol. Au contraire, si l'occasion te vient de faire une sunnah, tu es en voyage, tu es dans un jardin, tu es dans une ferme, prosterne-toi directement sur le sol, sur la terre. Et quand tu t'assois entre les deux prosternations, tu t'assois entre les deux sijda pour dire Rabbi Khfili, Rabbi Khfili. Laisse la terre comme ça, et les petits cailloux, et les brins d'herbe, tiens, laisse-les sur ton front comme ça, pour faire la deuxième prosternation. Sauf si ça te pique, yani, ça te pique, tu vas perdre le khushu. Mais si yani, ça te pique pas, laisse-les sur ta tête pour sentir un peu la salat des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car notre salat, c'est sur le tapis et sur la dalle de sol et sur je ne sais pas quoi. Yani, on est vraiment comme si on dit des fils à maman, je ne sais pas comment on dit, vraiment gâté. Hein. S'il n'y a pas un tapis, je ne fais pas prosternation. Je ne peux pas. Non, c'est très difficile. C'est très difficile de faire une prosternation sans tapis. Et certains exagèrent, ils mettent deux tapis. Un tapis sur un tapis. Non, un tapis sur un tapis. Pourquoi tu fais tout cela? Prends le nécessaire, c'est tout. Les ulama ont dit, c'est makro. Regardez qu'a dit le hadith combien de fois. Il a dit, quand il faisait chaud, il ne pouvait plus mettre son front sur le sol, il mettait quelque chose. Ça veut dire, comme on dit les ulama, les autres, ça veut dire que quand ce n'est pas une baroura, c'est pas la peine. C'est-à-dire, si tu peux directement à même le sol, c'est pas la peine de mettre quelque chose. Et ça ne fait rien. Maintenant, on a tous pris l'habitude, par exemple, que dans toutes les mosquées, il y a des tapis, il y a la moquette. Je ne vais pas maintenant faire des fitnas, enlever les tapis, enlever la moquette. Je ne vais pas faire la fitna, mais je me suffis de la moquette. Je ne vais pas ajouter sur la moquette un autre tapis. Moi, plusieurs fois dans ma mosquée, on m'apporte des tapis comme ça. On me dit, voilà, j'ai un tapis, je l'ai ramené de Hajjoula, spécialement pour la prière. Yani, il croit que c'est quelque chose de bien. Je vais le mettre sur la moquette, et spécialement pour l'imam, etc. Non, moi, je leur dis merci, etc. pour ne pas yani, hachimhom. Ensuite, je ne le mets pas, bien sûr. Ensuite, je le cache. Subhanallah. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la dernière des choses, il priait parfois sur une khumra. Une khumra, c'est quoi? C'est un morceau de natte, de feuilles de dattier ou tout autre végétal assez grand pour qu'un homme puisse y poser son visage. C'est quelque chose sur laquelle on peut poser seulement son visage. C'est comme si je puis dire une serviette. Hein? Une serviette. Non. Il a dit, Cheikh Al-Albani a dit, ce terme ne s'applique pas à de larges pièces. Non. Ce terme khumra ne s'applique pas à un tapis. C'est comme une petite serviette où on peut juste poser quoi? Son visage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois priait sur une khumra. Et vous connaissez le hadith de Aïcha, quand elle était menstruée, il lui a dit, va, ramène-moi la khumra du masjid. Elle a dit, je suis menstruée. Il a dit, tes menstrues ne sont pas dans ta main. Et elle est rentrée, elle lui a donné la khumra. La khumra, c'est quoi? C'est juste comme une petite serviette sur laquelle on pose seulement le visage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, il posait son front, il faisait prosternation sur une khumra. Ou parfois sur une natte. Parfois une natte. On appelle hasir, une natte. Et il pria dessus une fois. Il pria sur une natte au point qu'elle noircit en raison de son utilisation prolongée. Non. Une fois, il a tellement prié sur une natte, c'est pour dire aussi qu'on peut prier sur une natte et un tapis, il a tellement prié sur une natte qu'elle est devenue noire de par son utilisation. Regardez la natte. La natte, vous la connaissez. Plus on s'assoit sur elle, plus on prie sur elle, etc., plus elle noircit. Si on prie sur elle une année ou la deux années, elle va devenir toute noire. Vous connaissez ça. Non. Ici, dans ce hadith, il y a un intérêt que je voudrais montrer, mais c'est pour ça qu'il faut bien apprendre l'arabe, car quand des fois on traduit des choses en français, ça donne rien, mais si on garde le mot arabe, on peut tirer des avantages. Regardez en arabe, il a dit, bon, j'ai pas le hadith devant moi en arabe, mais il a dit que en noirci min poli maloubis, min poli, à force de maloubis, pour son utilisation. Mais le prophète, pardon, ici ils ont employé le mot loubissa. Loubissa, c'est-à-dire, elle a été portée, comme on porte un vêtement. Je dis, yelbes, hein, j'ai mis mon pantalon, hein, le bissou serwa ali matan, loubissa. Ici, ils ont employé, radiallahu ta'ala anhum, ils ont employé le mot loubissa. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas porté la natte. Il a mis la prière, pardon, il a fait la prière sur elle. La prière sur elle. Alors, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, donc, puisque ici, on a employé le mot labissa, le mot habiller ou la porter, à la place du mot s'asseoir, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'assoit sur une chose, c'est comme si on s'était habillé. Non. Quand on s'assoit sur une chose, en arabe, on peut dire, je me suis habillé cette chose. Non. C'est la même chose en arabe. On peut employer le terme labissa à la place du terme s'asseoir. Donc, quel avantage on prend? On prend donc, comme il est interdit de s'habiller de quelque chose, il est aussi interdit de s'asseoir sur elle. Non. S'il est interdit, par exemple, à l'homme de mettre, par exemple, de la soie, il est interdit aussi qu'il s'assoie sur la soie. Non, il ne va pas dire, l'interdiction c'est de s'habiller, moi je vais m'asseoir. On va lui dire non. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le hadith? Que le prophète alayhi sallam s'habillait de la natte, alors qu'il s'asseyait, c'est tout. Donc s'asseyer veut dire s'habiter, s'habiller veut dire s'asseyer, s'asseoir. Donc chaque chose qu'il est interdit de mettre, il est interdit de s'asseoir dessus. Et chaque chose dont il est interdit que tu t'asseyes dessus, il est interdit que tu la portes et que tu la mettes. Le prochain dars, inshallah ta'ala, c'est comment on se lève du sujoud. Comment on se lève du sujoud, qu'est-ce qu'on dit entre les deux sujoud, et comment on fait le tashahhud, comment on fait pour le doigt du tashahhud, qu'est-ce qu'on dit dans le tashahhud, etc. etc. Inshallah ta'ala, on se rencontre dans 5 minutes. Subhanakallahumma bihamdik. Je voudrais seulement dire pour mes frères et mes sœurs qui ont levé les mains que je préfère que, inshallah ta'ala, les questions aient rapport avec le das. Ou au moins, à la rigueur, avec la salat en général, puisqu'on est dans la salat. À la rigueur, avec la salat en général. Maintenant, ceux qui ont des questions qui sont hors le cours ou la hors salat, qu'ils les envoient à ceux qui n'ont pas le point rouge, et ceux-là vont les garder, inshallah ta'ala, et ensuite ils vont me les donner, bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Naam, ils vont me les donner après, bi'idhnillahi azza wa jal. C'est pour ça que Abu Abdurrahman, par exemple, je lui enlève le point rouge, comme ça, inshallah ta'ala, les frères peuvent lui envoyer des questions qui sont hors sujet pour les cacher. Il va me les donner après, inshallah ta'ala. Je reviens, inshallah, dans 5 minutes ou 10 minutes. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Youssef, tu mets le Coran, barakallahu fik. Youssef, tu mets le Coran, barakallahu fik. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fih saut. Naam, fih saut. Fih saut. Naam. Tayyib. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Marhaban bikoum encore une fois pour les questions-réponses. Et avant cela, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Naam. Lorsque je fais le cours de lundi, tout le monde sait que je le fais dans la section Europe, rubrique Europe, et la salle c'est sur le chemin du paradis. Naam. Ce n'est pas dans la rubrique Islam. Al-Muhim. Quand je fais ce cours-là, je dois vous faire remarquer 3 choses. La première des choses, quand vous levez les mains pour les questions, vous m'excuserez dans l'autre salle, hein, la salle d'Europe, vous m'excuserez si je fais passer certains avant vous. Certains, ce seront bien sûr des kofars et sirah qui sont entrés dans la salle, parce que vous êtes, inshallah ta'ala, toujours avec moi, c'est-à-dire que vous pouvez y passer après. Tandis que ceux-là, quand ils rentrent, peut-être qu'ils ne vont plus revenir, alors ils veulent poser sa question. Donc, inshallah ta'ala, des fois je ferai passer certains avant vous. Vous avez compris la cause pourquoi, premièrement, et deuxièmement, je vous ai demandé la permission dès maintenant, inshallah ta'ala. Deuxièmement, il ne faut pas s'étonner, par exemple, quand un kafir, par exemple, lève sa main, je lui donne, par exemple, pour qu'il écrive ou là pour qu'il dise quelque chose. Il ne faut pas s'étonner s'il va dire des choses obscènes ou là des choses de haïb, ou là il va insulter ou là il va écrire des choses affreuses comme ça, obscènes dans la fenêtre, il y a affiché comme ça, il ne faut pas s'étonner. Hein, c'est un kafir et c'est comme ça qu'il conçoit la vie, et c'est comme ça que ça lui chante, c'est comme ça que lui dit le shaitan. Donc il ne faut pas s'étonner si vous voyez des choses comme ça ou là. Et troisièmement, c'est aussi important, la troisième des choses, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un pose une question, un kafir pose une question, et que je ne suis pas obligé de connaître sa réponse. Quand il me parle par exemple de la Bible, ou là, de la Torah, ou là, je ne sais pas, il dit des choses que je ne connais pas par exemple. Si quelqu'un de vous connaît la réponse, il peut répondre. Non, que ce soit un homme ou une femme. Non. Il peut répondre, Inch'Allah Ta'ala. Il envoie à ceux qui n'ont pas le point rouge. Il dit, voilà, Chir, je veux répondre. Et moi, s'il veut, je lui donne le micro. Mais s'il veut, il écrit. Il dit, voilà la réponse à la question de cette personne. Car il est possible, très très possible, qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je n'aurai pas de réponse. Des choses qui ont un rapport avec la Bible, etc. Moi, je n'ai jamais étudié la Bible, etc. الله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهيم تسعة تفضل. نهيم تسعة مرحبا بك تفضل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام. On m'a dit que c'est une sunna de faire deux rak'a après le asr et qu'on avait 40 minutes après l'as pour les faire. Est-ce que c'est vrai? Si oui, c'est quoi la première fois de l'écran? Le frère Abou Céline se propose de prendre les questions des frères, Inch'Allah. Naam, Abou Céline, je lui ai enlevé le point rouge pour qu'il puisse, Inch'Allah Ta'ala, prendre les questions. Tayyib, je rappelle une chose très importante, mon frère Nahim. Nahim Tessa, une chose très importante, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, croit qu'il est interdit de faire la nafila, la prière surérogatoire, après le asr. Et il se base sur un hadith qui est authentique, bien sûr, qui dit quoi? Qui dit « La salata ba'd al-asri hatta taghrub al-shams »« La salata ba'd al-fajri hatta tatlou al-shams »« Wa la salata ba'd al-asri hatta taghrub al-shams » Ils disent, le prophète a dit, il n'y a pas de salat après l'asr, hatta taghrub al-shams. Et nous, on va répondre à cette personne de deux choses. Première des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la salat après l'asr. Naam. Comme une fois, des gens l'ont retenu et il a fait la sunna du dhuhr qui est après le dhuhr, il l'a faite après le asr parce que les gens l'ont retenu. Et même certains ulama sont allés directement à dire qu'il y a deux rak'at après l'asr. Mais le plus juste, et ça c'est deuxième, il est permis de faire de la prière surérogatoire après Salat al-Asr directement, c'est-à-dire tant que le soleil est bien au milieu du ciel, enfin au milieu, entre le zénith et le coucher, il est encore blanc, car Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a dit dans un hadith sahih qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que la salata ba'd al-asri illa wa shamsu bayda illa wa shamsu naqiyatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il n'y a pas de salat après l'asr sauf si le soleil est encore blanc, yani naqi, propre, ça veut dire qu'il n'a pas encore été touché par la rougeur du soleil, ou là il n'est pas encore devenu très jaune. Donc le hadith qui dit il n'y a pas de prière après l'asr, c'est un hadith général, âme. Et ce hadith, le deuxième de Ali, c'est un hadith particulier. Donc ce hadith, avec ce hadith, il particularise l'autre, yukhassis al-âme. Donc conclusion, on peut faire la salat nafila après l'asr, c'est permis. À condition que quoi? À condition de la faire juste après l'asr. À peu près peut-être une demi-heure. Mais ce n'est pas quand le soleil s'apprête par exemple à se coucher ou là quand le soleil est devenu déjà خلاص jaune. Non, parce que à Salat al-Asr le soleil est encore blanc. Regardez le soleil à Salat al-Asr, il est encore blanc. Mais s'il commence خلاص il est devenu tout jaune et il va rougir, ça c'est interdit car il y a le hadith qui dit la salat ba'd al-Asr hatta taghrub ash-shams. والله سبحانه وتعالى est plus savant. Non. Oum Abd al-Rahman tafaddali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le fait de se passer de l'eau une seule fois au lieu de trois fois lorsqu'on fait des ablutions pour faire la salat est valable si on ne fait cela tout le temps? Naam, c'est valable, mais ce n'est pas bien. Il y a une différence entre jaiz wa laysa bi mashrou'. Naam, valable, mais ce n'est pas conseillé. Naam, le conseillé c'est de faire au moins deux, trois fois. Naam, deux fois au moins et trois fois, c'est mieux. Mais de temps en temps, on fait une fois, c'est bien. Mais si on va le faire ça tout le temps, une fois, une fois, une fois, une fois, on n'a pas fait comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme faisaient les pieux prédécesseurs salaf radiallahu ta'ala anhum. Naam. Car il faisait la plupart du temps trois fois. Et de temps en temps, quand on n'a pas beaucoup d'eau là, on se suffit à une fois. Mais faire de ça une sunna qui ne change pas et laisser le meilleur qui est trois fois, ce n'est pas de la sunna. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم أبو بلال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Doit-on faire le salam quand on fait une prière surrogatoire alors que la prière obligatoire a commencé et qu'on n'a pas encore fini la salat? Vous avez dit qu'on peut prier partout et qu'avant il fallait aller à l'église ou synagogue. Est-ce que c'est là que les gens avant l'islam adorer Allah barakallahu fik. Naam. En ce qui concerne la prière surérogatoire, quand on est en train de la faire, ensuite la salat va commencer. Hein? On entend Allahu akbar, Allahu akbar jusqu'à ce qu'ils disent qad qamat salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa. Là, il faut bien faire attention à deux choses. La première des choses, est-ce que ma salat est vers la fin ou là je suis par exemple au milieu? Non. Si je suis vers la fin, je continue ma salat. Il me reste juste un peu. Il me reste par exemple la fin du tashahhud. Je le fais vite parce que le temps que la salat, que la iqama se termine et que l'imam dise yani sawu sufufakum fa inna tsawit sufuf min tamam salat, etc., j'ai déjà le temps d'être debout parmi les gens. Naam. Donc la première des choses, on voit nous dans quelle position on est dans la salat. Est-ce qu'on est à la fin ou là au début ou là au milieu? Deuxièmement, on voit aussi l'imam. Est-ce que c'est le genre qui yani attend un peu, il dit par exemple sawu sufufakum la tusawunna sufufakum ou la yukhalifanna Allah bayna qulubikum istawu, etc. Ou bien c'est le genre d'imam qui yani, il va vite, il termine vite pour aller voir un match à la télévision. Ça dépend, on va voir c'est quel imam celui-là. Si c'est un imam, mashallah, sunna qui attend, et tu sais que toi, tu peux terminer vite pour rentrer avec lui, car d'habitude il attend, celui-là, comme j'ai dit, tu termines ta salat. Sinon, tu dois sortir de la salat. Quitter ta salat, mais comment qu'on la quitte? Certains ont dit, on la quitte sans dire salamu alaikum. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit ida uqimati salat, ida uqimati salat fala salatu illa al-maktuba, fala salata pardon illa al-maktuba. Naam, fala salata illa al-maktuba. Donc ils ont dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand la prière obligatoire est prête à commencer, il n'y a plus de salat. Ils ont dit, puisqu'il n'y a plus de salat, c'est que ta salat est nulle. Et puisque ta salat est nulle, alors tu n'as pas besoin de dire salam alaikum. Certains ont dit comme ça. Et d'autres ont dit, comme Cheikh Firkous Mohamed Hafidahullah, dans une sifetwa, il dit que de préférence on dit salam alaikum. Car certains sahaba, quand ils ont entendu la iqama, ils sont sortis avec salam wa alaykum. Ils sont sortis avec salam wa alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu quelqu'un faire la prière, il lui a dit, tu fais la prière alors que la prière yani, va commencer. Il a dit, il est sorti en disant salamu alaikum. Mais, ici une petite parenthèse, quand on dit salamu alaikum, ce n'est pas obligé de se tourner à droite et à gauche. On dit seulement des lèvres comme ça, salamu alaikum, et on sort de la salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Cher, j'ai une question, je me mettais en privé. Afin de vous aider dans le triage des questions, inshallah ta'ala. J'ai quelques questions des sœurs, j'attendais votre accord pour en envoyer entre deux personnes. Naam, Ourtialafia, pose ta question. Abou Sirin, attends que je te cherche. Naam, je te donne le PV, hein. Je vais ouvrir le PV avec toi. Taïb. Om Youssef, j'ai posé une question plus haut. Om Youssef, avant de poser la question, inshallah ta'ala, tu m'as averti. Tu m'as averti, bi'idnillah azzawajal. Naam. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vois pas maintenant où est ta question. Naam. Je suis en train de monter, je ne la vois pas. Al-Muhim. Om Youssef, quand tu as mis numéro 1, je croyais que tu avais dit qu'il y avait le sang. J'ai vu ton numéro 1, j'ai dit, ça veut dire, elle a dit, il y a le sang. Naam. Pour Salafia, j'attends. Tayyib. Dor Saf. Dor Saf, tafadhal. Tayyib, attends alors une seconde. Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmatullah. Peut-on dire dans le sujoud, Alhamdulillah, ou sinon, comment on fait les louanges dans le sujoud, barakallahu fikum. C'est normal. C'est normal qu'on puisse dire Alhamdulillah. Et c'est bien de le dire. Mais ce n'est pas de lire la sourate Alhamdulillah. De dire Alhamdulillah, na'am. Avant de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire Alhamdulillah, yani Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah pour tout ce que tu m'as donné. Ya Allah, Alhamdulillah pour les enfants que tu m'as donné. Pour le bien que tu m'as donné. Pour l'iman que tu m'as donné. Pour la santé que tu m'as donné. C'est magnifique de dire Alhamdulillah. Naam. Il y a pas, dans un autre hadith, il a dit c'est afdal dhikr, yani, que quelqu'un dise Alhamdulillah. C'est faire louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mais bien sûr, après, subhanahu wa rabbil a'la, bien sûr. Ensuite, tu fais les autres invocations. Naam, inshallah ta'ala. Donc, ça fait afdal. Donc j'ai dit on commence par Alhamdulillah et si ensuite tu veux la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite tu fais les doigts personnels, les doigts personnels. Après Dor Saf Oum Youssef. Tayyib. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Hal yajouz at-tasmiya bi Jibril wa Israfil? La yajouz. Naam. La yajouz at-tasmiya avec les anges. Naam, il n'est pas permis d'appeler quelqu'un avec un nom des anges. Un jour, inshallah ta'ala, je vous ferai un dors spécialement sur les noms. Naam, il n'est pas permis d'appeler quelqu'un avec les noms des anges. Ou au moins, il est makruh. S'il n'est pas haram, il est makruh. Mais on ne peut pas appeler quelqu'un avec le nom d'un ange. Bi'idnillahi azza wa jalla. Naam, Allah yajazik. Om Youssef. Et Diak 59, prépare-toi. Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que c'est possible de tirer un frère lors de la salat pour ne pas qu'il prie seul sur un rang? Est-ce que c'est possible de tirer un frère lors de la salat? on le tire pour ne pas qu'il prie seul sur un rang. Tayyib, j'ai pas compris comment qu'on le tire. Naam. Je n'ai pas compris dans quelle position on est ou si on veut le tirer. Naam. Parce que si vous savez que certaines personnes croient que c'est de la sunna de tirer comme ça quelqu'un du dos pour le faire venir dans quoi? Dans le rang. Alors que ça, ce n'est pas dans la sunna. Qu'on place dans le rang, alors que ça, ce n'est pas dans la sunna. Premièrement, on risque de lui faire peur parce que yani, il savait pas et comme ça on l'a tiré du dos. Non. Mais il faut que je comprenne bien dans quelle position on est quand on veut tirer sur quelqu'un. Dans quelle position on est. Non. On le tire pour ne pas qu'il prie seul sur un rang. Yani, nous on est tout. Où est-ce qu'on est pour qu'on le tire, Adam? Et lui, où est-ce qu'il est et nous, où est-ce qu'on est? Taïb, le temps, inshallah ta'ala, que tu écrives. Diak 59, tafazzal. Je fais mon Jumu'ah dans une moussalla où la khutbah est en français. Je ne comprends pas l'arabe. Un frère m'a dit que je n'avais pas le droit, qu'il faut remplir les mosquées pour la Jumu'ah. A-t-il raison? Quelles sont les preuves qu'Allah vous récompense? Je fais mon Jumu'ah dans une moussalla où la khutbah est en français. Je ne comprends pas l'arabe. Un frère m'a dit que je n'avais pas le droit car il faut remplir les mosquées pour la Jumu'ah. A-t-il raison? Quelles sont les preuves que l'on a? Non. En principe, la Jumu'ah, on l'a fait dans une mosquée. Plus elle est grande, plus c'est mieux. Plus une mosquée est grande et contient deux gens, plus c'est mieux. Et plus on va vers des petits musallas, plus ce n'est pas bien. D'ailleurs, Jamaluddin Qasimi, rahimahullah, a bien montré cela. Dans son livre, j'ai oublié comment qui ça s'appelle, Masajid, comment qui ça s'appelle avec Bida al-Masajid, non? Il a bien montré que ce n'est pas de la sunna le vendredi de la faire dans un musalla. Un petit musalla, on se groupe et on fait la khutbah. La khutbah, normalement, si c'était possible, je dis si c'était possible, chaque ville aurait une seule mosquée, si c'était possible. Mais si c'est pas possible, yani, faire le minimum de grandes mosquées, pour ne pas diviser les musulmans et pour qu'ils entendent tous la même chose, pour qu'ils entendent tous à peu près la même chose, et en ce sens, ils seront unifiés. Car comme a dit Jamaluddin Qasimi, il a dit sinon, maintenant dans chaque quartier, on va yani, prendre une chambre et placer un petit minbar, une petite chaise, et on va faire la Jumu'ah à 10 ou 15 ou 20 personnes. Non. Mais je ne peux pas te dire que ta salat n'est pas vraie. Non. Ni n'est pas juste. Non. Je veux dire que, de préférence, c'est une grande mosquée. Maintenant, même Moussallah, je ne sais pas, toi tu dis Moussallah, peut-être qu'il y a 200 ou 300 personnes. Moi je ne connais pas cette Moussallah. Peut-être qu'à l'intérieur il y a 200 ou 300 personnes, je ne sais pas. Mais de préférence, la khutbah, elle doit contenir l'arabe. Elle doit contenir des versets et des hadiths. Non, 50, c'est peu. Non, 50, c'est peu. C'est peu. Mais c'est valable. 50, c'est peu, mais c'est valable. Il n'y a aucun dalil qui dit qu'il faut un certain nombre pour le Jumu'ah à part deux. Non, plus de cela, il n'y a pas un dalil qui dit qu'il faut 5, 6, 20, 30, etc. C'est pour ça que on fait la différence entre ce qui est permis et ce qui est conseillé. Il faut faire la différence entre le jaiz et le mashrou'. Mais comme je disais, il faut que la khutbah contienne yani, certains versets et comme ça certains hadiths. Ensuite, il commence yani, à parler dans la langue que les gens comprennent. Mais si tout le monde comprend l'arabe, il doit la faire en arabe. Si c'est mélangé, il peut parler en arabe et en français. Il parle un peu en arabe et il traduit en français. Il parle un peu en arabe et il traduit en français. Comme ça, c'est mieux que de la faire toute en français. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أم سلمة تفضلي. Il mélange, c'est bien. نعم. Il mélange. Moi, je croyais qu'il la faisait seulement en français. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quand vous dites qu'il faut rien laisser passer en prier et se coller contre la sutra, comment faire quand on guide? Est-ce que les autres personnes avancent aussi? Je parle pour des sœurs. Ah, pour des sœurs, naam. Sinon, ça m'avait étonné. Naam. Tayyib, je répète la question. Quand vous dites qu'il ne faut rien laisser passer en prier et se coller contre un sutra, comment fait-on quand on guide? Est-ce que les autres personnes avancent aussi? De toute façon, c'est la première fois que je vois cette question. C'est la première fois que je la vois dans ma vie et je n'ai jamais lu une réponse à cette question. Je n'ai jamais lu yani, quelqu'un, un alim, qui a répondu à cette question. Quand je dis je n'ai jamais lu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, c'est moi qui n'ai pas lu. Ce n'est pas les ulama qui n'ont pas parlé. C'est moi qui n'ai pas lu. Je n'ai pas lu comment, dans ce cas, on peut faire. Est-ce qu'elles avancent toutes ou seulement celles qui guident au milieu avancent? Je ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je demanderai pour apprendre, inshallah ta'ala, et te répondre, ya Salama. Naam, inshallah ta'ala. Mahmoud 621, tafadhal. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. Quel est le tashahhud que prononçait le prophète صلى الله عليه وسلم pendant la prière? Quand j'en ai appris plusieurs, je voulais aussi savoir si c'est une bid'a ou non de réciter des hadiths en les récitant d'une manière mélodieuse comme pour le Coran. Barakallahu fik. Naam. Pour le tashahhud, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs formules. Inch'Allah ta'ala, ce sera le dars prochain. Bi'idna ta'ala, dans le prochain dars, je vais donner les 4 ou 5 yani, formules les plus justes et les plus connues qu'ont rapporté les compagnons radiyallahu ta'ala. Car je voudrais dire que beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs font le tashahhud faux. Comment qu'ils le font faux? Ils mélangent. Ils disent un tashahhud qui, en fin de compte, moulafaq. C'est-à-dire, si tu vas bien méditer sur ce tashahhud, tu vas trouver qu'il y a deux ou trois formules qui ont été mélangées. Alors que ce n'est pas vrai. Le tashahhud, il doit contenir une formule qui commence du début, se termine à la fin. C'est pour ça que, par exemple, les quatre tashahhud que je vais donner la prochaine fois, chacun de nous doit apprendre au moins une formule. Il apprend par cœur comme on apprend le Coran, le tashahhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait apprendre aux compagnons comme il leur faisait apprendre le Coran. Le tashahhud, on ne doit pas mélanger des formules. Non. Un seul tashahhud, tu l'apprends bien et tu le dis toute ta vie, ça ne fait rien. Donc, prochain cours, inshallah ta'ala, je donnerai et j'écrirai aussi comme ça le tashahhud, quelle est la vraie formule pour l'apprendre comme quelqu'un apprend le Fatiha. Comme ça, il le dira sans se tromper, inshallah ta'ala. Et pour les hadiths, est-ce que c'est de la sunna de réciter, est-ce que c'est de la sunna, c'est une bid'a ou non de réciter des hadiths en les récitant d'une manière mélodieuse comme pour le Coran? Naam, ce que je sais, c'est que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ne les récitaient pas d'une manière mélodieuse. Et yani, ça penche beaucoup plus vers la bid'a que vers la sunna. Ça penche beaucoup plus vers la bid'a que vers la sunna. Les gens, en les récitant comme ça d'une façon mélodieuse, yani, au lieu que le hadith soit récité d'une façon comme ça, qui te fasse yani, le khushu', et le hadith, pourquoi il a été, pourquoi on l'entend? Pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il comprend et pour l'appliquer. Pour l'appliquer aussi. Maintenant, les gens le prennent en mélodie. Le prennent en mélodie et certains vont être attirés par la façon d'être mélodie. Ils disent, Masha'Allah, comment il a été récité, Masha'Allah. Mais ils n'ont rien compris à ce hadith, ni ont appliqué. Ni l'ont compris, ni l'ont appliqué. Khayrul hadi, hadiyu, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa salafina salih. Non, les salafs ne récitaient pas en mélodion. والله سبحانه وتعالى أعلم. أبو عبد الرحمن أنت تفضل. Tu n'as pas de point rouge. أم يوسف, tu devais poser la question. Pose-la. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-il possible de mettre une note dans le cas où nous ne sommes pas sûrs de la propreté du sol, ou est-ce une erreur? Ou devons-nous simplement nous assurer qu'il n'y ait pas de najasa et laver le sol avant de prier? Barakallahu fikou, jazakallahu khairan. Naam. La base, c'est que toute chose est propre jusqu'à ce que nous vienne le délil qui prouve que cette partie, par exemple, du sol n'est pas propre, n'est pas pure et contient de la souillure. Naam. Certaines personnes, quand on est par exemple en voyage, ou là on va s'arrêter ici, par exemple il y a un arbre, je dis voilà il y a un arbre ici, je vais le prendre comme sutra pour faire la prière. Certaines personnes vont dire peut-être il y a un chien qui est passé par là et il a uriné sur cet arbre. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que je vais dire la règle, c'est que toute chose est pure et que quiconque dit qu'une chose est souillée ou la contient de la souillure, c'est lui qui doit nous apporter le dalil. Donc, apportez-moi le dalil que dans cet arbre est venu un chien et il a uriné, et que tu l'as vu, le chien, et tu te souviens de lui, et que maintenant, par exemple, voilà l'odeur, il y a l'odeur sur l'arbre, où il y a yani, quelque chose de mouillé, etc. Tout ça, ça rentre dans le waswas du shaitan. Maintenant, je mets une note dans n'importe quel endroit en me disant dans mon cœur que cet endroit est propre. Pourquoi? Je n'ai aucune preuve qu'il y a une souillure. Je ne vois rien devant moi, je ne sens rien et je n'ai pas vu un chien qui a uriné ici, ni un homme. Donc, je ne vais pas rentrer dans les ouest et me mettre à plat ventre et essayer de sentir le sol. Attends, je vais sentir le sol s'il contient une odeur ou pas. Attends, je vais prendre une poignée de la terre et je vais aller au laboratoire faire les analyses. Pour qu'on me dise est-ce que c'est souillé ou pas. Après, Inch'Allah Ta'ala, je vais faire la prière. Non, c'est pas comme ça. N'importe quel endroit, je dis il est propre. Je pose ma note, Allahu Akbar. Maintenant, s'il y a un délil visible que cette partie contient de la souillure, c'est là que je ne peux pas, yani, que je ne peux pas faire la prière, que je dois laver. Naam. Tayyib. Hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Om Yusuf, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir si je peux prier sur un tapis dans un lieu qui est najis. Par exemple, mon fils a fait pipi sur un tapis chez moi, que je ne peux pas laver. Puis dans ce cas, poser un tapis propre par-dessus et prier, Inch'Allah, barakallahu fikum. Naam. Naam. Si on pose une chose propre sur une autre chose qui était par exemple souillée et qui, quand je fais la prosternation, je ne sens pas l'odeur de la souillure qui est en bas, c'est permis. Naam, je ne sens pas l'odeur de la souillure qui est en bas, c'est permis. Mais si il y a une odeur qui monte du tapis qui est en bas, ensuite toi, quand tu te prosternes, tu sens Hein? Dans ce cas, ce n'est pas permis. Non, mais si on met quelque chose dessus, il n'y a aucune odeur, la prière est valable à cause du deuxième tapis qui est en haut. Inch'Allah ta'ala. Tayyib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque nous sommes dans l'aise, dans l'assise, entre les deux prosternations, peut-on regrouper l'invocation? Non, on avait dit la fois passée que de préférence, on regroupait pas. Vous vous souvenez ce qu'avait dit Cheikh Al-Albani et le dalil qu'il avait donné, et que de préférence, on ne regroupait pas. Mais si on regroupait, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas conseillé. Non, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas conseillé. Mais de préférence, on ne regroupe pas bi'idhnillahi azza wa jal. Non. Ouh salafiyya, tafadhali. Ensuite, Abu Omar, ensuite, Yusuf. C'est pour ça que les sœurs qui sont en train de. Qui lèvent la main, ça aurait été mieux si elles avaient envoyé leurs questions directement aux sœurs, pour ne pas yani, rester comme ça la main levée. Taïb, est-il vrai que Cheikh Mouqbil a dit que le fait de dire avant la prière Inna Allah la yandoru al-saf al-awaj est un hadith da'if, barakallahu fikum? Naam, ce hadith est da'if. Je ne sais pas si Cheikh Mouqbil Allah yarhamou a dit cela, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le hadith n'est pas vrai. Et surtout, ceux qui ajoutent Inna Allah la yandoru ila saf al-a'wuj bi ayni rahmatihi. C'est plus grave, ceux qui disent que Allah Ta'ala ne regarde pas le rang qui est déformé avec son œil de miséricorde. Ceux-là, ce sont des asha'ira qui ne reconnaissent pas à Allah Azza wa Jalla, ne lui reconnaissent pas l'œil. Ils disent ils ne voient pas yani le rang avec son œil, son vrai œil, mais il ne va pas le voir avec son œil de la miséricorde. Ça veut dire qu'il ne va pas leur donner des récompenses, etc. Donc ça, c'est plus grave que le hadith comme ça, que Allah Ta'ala ne regarde pas un saf, un rang qui est tordu, et qui, comme je viens de dire, est un hadith da'if, faible. Naam. Abu Omar, tafadhal. Salam alaikum. Alaikum salam. Je voudrais savoir, si on ne s'est pas levé pour le Fajr à l'heure, et c'est l'heure du Shuruq, est-ce qu'on peut prier quand même ou on doit attendre après que le soleil soit bien levé? Barakallahu fikum. Naam. À cette question, j'ai répondu plusieurs fois. Mais ça ne fait rien, tellement c'est important que je vais re-répondre. Je vais re-répondre encore une fois. Quand quelqu'un se lève le matin, il est dans l'un des trois cas. Il a trois cas seulement, il n'y a pas le quatrième cas. Quand quelqu'un se lève le matin, il est dans l'un des trois cas. Premièrement, ou bien il se lève, il se réveille et il trouve que c'est toujours noir. Masha'Allah, il n'y a ni soleil, ni rien, tout est noir. Bien sûr, les gens ont fait déjà la prière, mais je vois par la fenêtre que tout est noir. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le à la maison. Il fait le azan et il fait la prière du fajr. Ensuite, il fait l'iqama. Ensuite, il fait la prière du sobh, qui est l'obligatoire. Premier cas. Deuxième cas. Il se réveille, il trouve le soleil, masha'Allah, qui est sorti, khlas. Le soleil est bien en haut, au-dessus de notre tête, on le voit en haut, il est peut-être 8 heures du matin, je ne sais pas combien, khlas. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fait le adhan, et il fait la même chose, il fait la salat fajr, qui est sunnah, ensuite il fait iqama, ensuite il fait salat sobh, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est réveillé une fois, Abu Bakr l'a réveillé, c'était le soleil qui tapait dans les yeux, ils ont changé d'endroit, à cause du shaitan, et ils ont, Bilal a fait le adhan, et ils ont fait le fajr chacun seul, ensuite ils ont fait le sobh. Donc ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, je me réveille, je regarde par la fenêtre, je trouve que le soleil risque de se lever. Il ne s'est pas encore levé, mais il y a des rayons déjà qui sortent derrière les montagnes. Surtout si on est à la campagne, on voit ça. On voit les rayons qui commencent à sortir. Donc, le soleil va sortir dans 5 ou 10 minutes maximum. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais le adhan et je commence directement par l'obligatoire. Je commence par salat sobh. Je ne fais pas la sunna du fajr. Je commence par salat sobh, qui est obligatoire. La salat obligatoire n'a pas un temps où il n'est pas possible de la faire. Ça se fait en tout temps. Donc je commence par elle, et qu'est-ce que je fais ensuite? J'attends une demi-heure ou là une heure moins quart jusqu'à ce que le soleil se lève bien, au moins une demi-heure, et je fais quoi? Et je fais salat al-fajr. Inch'Allah ta'ala que mon frère Abu Omar a compris. S'il n'a pas compris, Inch'Allah ta'ala, il me fait signe, et Inch'Allah ta'ala, je lui répète bi'idnillahi azza wa jal. Tayyib. Assalamu alaikum. Cheikh, il y a un livre qui a été traduit, je pense que son auteur est au Koweït. Le connaissez-vous? Il s'appelle Sayyid Abdullah, Sayyid Abdurrahman Rifa'i Abu Hashim. Et le livre est Kama Tadinu Tudan. Comment tu fais? Ce sera fait. L'auteur est-il salafi? Et pouvons-nous lire son livre? J'ai compris, Barakallahu. Alhamdulillah, ça me fait plaisir que tu comprennes. Donc, puisque tu as compris, je te donne un point rouge. Voilà, tu as compris, je te donne un point rouge et je te descends. Non. Qu'est-ce que tu dis, nous tout d'un? Non. De toute façon, beaucoup de gens se basent sur ce hadith. Ils disent, le prophète Ali a dit, ce hadith n'est pas vrai, entre parenthèses, ce hadith n'est pas vrai. Ensuite, il y a quelqu'un au Koweït ici qui s'appelle Rifa'i. Moi je ne sais pas s'il s'appelle Sayyid Abdullah, Sayyid Abdurrahman, ça je ne sais pas, mais qui s'appelle Rifa'i et qui bien sûr est très dangereux parce que c'est un des têtes des soufis. Donc je ne sais pas cette personne dont vous parlez si elle est couétienne ou pas. Mais cette personne, c'est une tête des soufis qui fait la guerre aux salafistes. Donc, il faut bien qu'on soit sûr qu'on est en train de parler de la même personne. Non, cette personne est couétienne. Car ce prénom Seyd, etc., et ça me dit qu'il est, Allahu alam, égyptien. Allahu alam. Tayyib, Bamon Tafadal. Assalamu alaikum. Après Bamo Om Youssouf, pourrait-on faire tahiyyat al-masjid dans un musalla où tous les saints salats sont accomplis sauf celui du Jumu'ah? Barakallahu fikum. Naam. Cheikh Ben Uthaymin Allahyarhamou dit plus que cela, dit tu peux même faire tahiyyat al-masjid yani hors le masjid. Il n'y a pas de masjid, il est complet. Les gens qui viennent et posent leur tapis à l'extérieur, il dit, tu peux faire là-bas aussi, quoi, tahiyyat al-masjid. Donc, inshallah ta'ala, là où il y a les saintes prières, tu l'as fait, bi-idhnillah ta'ala, tahiyyat al-masjid. Naam. Car c'est un endroit qui a été pris comme masjid. Naam. Assalamu alaikum. Voilà, après avoir écouté un dars sur la musique et avoir eu les preuves interdites, j'ai décidé de ne plus mettre de musique chez moi. Cependant, ma femme a acheté des CD de groupe soi-disant nashid avec des instruments de musique. J'ai décidé de les jeter après avoir expliqué plusieurs fois à ma femme qui croit que c'est haram. Ai-je eu raison? Naam, c'est toi le responsable à la maison. Ce n'est pas ta femme. C'est toi le responsable à la maison. Ta femme est responsable de, yani, qu'est-ce qu'elle a fait à manger, etc. Mais question de din comme ça, vous êtes les deux responsables et toi beaucoup plus responsable qu'elle. Alors, c'est nashid où il y a la musique. S'il n'y avait pas de la musique, c'est plus ou moins. Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Ben Uthaymin Allah yarhamou, a dit que yani, si quelqu'un entendait de la musique, pardon, si quelqu'un entendait des anachid de temps en temps, pour ne pas yani, parce qu'il est fatigué ou là pour ne pas yani, il mêle, comment qu'on dit mêle, pour ne pas dégoûter, etc. Il a dit inshallah ta'ala, ce n'est pas grave. Non, mais des anachid avec les instruments de musique, ça doit pas, yani, c'est interdit. C'est pour ça que il les jette, moi je dis il les casse, parce que quand il les jette, d'autres gens vont les prendre et les écouter. Naam. Ma femme dit que c'est des chansons, il y a de bonnes paroles. Je ne parle pas de bonnes paroles, je parle des instruments de musique. S'il n'y avait pas des instruments de musique, ça ne fait rien. Naam. Si quelqu'un achète des qasaïd comme ça, etc., il n'y a pas d'instruments de musique, c'est inshallah ta'ala permis, à condition que ça soit pas à la place du Coran. On fait pas comme les frères musulmans qui les nashids sont devenus à la place du Coran. Les nashids, tu les entends de temps en temps. De temps en temps, tu es dégoûté, tu es fatigué, tu fais un nashid, tu l'entends, mais il n'y a pas d'instrument de musique, ni synthétiseur, ni rien. Seulement quelqu'un qui parle. Quand tu entends par exemple l'Afasi, par exemple le Mshari, tu entends en train de dire comme ça des choses où il n'y a rien, par exemple. Il n'y a aucune musique, aucune guitare, ni rien. Naam. Comme a dit Youssouf, Abou Sirin, barakallahu fik, on est toujours avec les questions qui ont rapport au Dars. Naam. Islamia 3, tafadval, ou tafadvali. Donc il ne les jette pas ces CD, il les casse. Il les casse. Car s'il les jette, il y a d'autres qui vont les prendre. Naam. Youssouf, tafadvali. Abu Halima, prépare-toi, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lorsque j'ai fait la prière dans ma chambre, je prends mon armoire comme sutra. Mais j'ai un chat. Et lorsque je fais la prière, parfois, elle me passe devant. Parfois, elle joue avec le tapis de prière. Et ça lui arrive aussi de se mettre carrément dessous le tapis, de rester là. J'aimerais savoir si ma prière est acceptée. Ces animaux sont comptés comme les petits enfants à bas âge qui passent devant une personne qui prie. J'ai lu dans le livre de Cheikh Mohammed Nasruddin Albani, la description du prophète, alayhi salam, du premier takbir, il ne laissait rien passer entre lui et Sutra. Au point, une fois, il priait quand une brebis est venue courant derrière lui, il a devancé, il s'est collé, a collé son ventre contre le mur et la brebis est passée derrière lui. Naam, ce hadith, je l'ai cité tout à l'heure. Et j'ai dit qu'on ne devait rien laisser passer entre la sutra et nous. On ne doit rien laisser passer. Ni un chat, ni un rat, ni encore moins une brebis. Ce qu'on peut laisser passer, Allahu alam, ça c'est pour plaisanter, c'est toi. On peut laisser passer une fourmi. Non, une fourmi, inshallah ta'ala, pas de mouchkila. Mais on ne doit pas laisser passer les autres. C'est pour ça que le chat aussi, on ne doit pas le laisser passer. Si le chat veut monter sur notre dos, quand on fait la prière, c'est pas une mouchkila. On le laisse sur le dos. On dit entre parenthèses, reste sur mon dos et laisse-moi tranquille. Il ne vient pas seulement en face de moi. Non. Mais il faut pas le laisser passer entre la sutra et toi. Et la meilleure salat, inshallah ta'ala, c'est de faire sortir le chat de la chambre. C'est de faire sortir le chat de la chambre pour ne pas faire de problème. Non, pour ne pas faire de problème. Car il ne va pas te laisser méditer sur ta salat. Et les chats aiment beaucoup jouer avec les tapis, avec la laine, etc., etc. Non, la salat n'est pas annulée. Je ne lui ai pas dit que la salat est annulée. La salat est annulée qu'on passe entre nous et la sutra. Une femme, c'est-à-dire qui est pubère, un âne et un chien noir. Non. Cela enlève la salat et l'annule. Les autres, si tu laisses passer une autre personne qui n'est pas de ces trois, elle t'enlève la moitié de la salat. Comme c'est dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud avec Sanad Sahih ou bien Hassan. Mais si tu ne le laisses pas passer et c'est lui seul qui passe, tu veux pas laisser, il est passé, il ne t'enlève rien. car tu as fait des efforts pour ne pas le laisser passer. Alors moi, pourquoi je vais rentrer dans les problèmes? Est-ce que ma salat est valide? Est-ce qu'elle n'est pas valide? Je fais sortir le chat avant quoi? Avant de faire la prière. Non. Je prends le chat, je lui dis, tu es gentil, je t'aime bien, mais j'aime la salat plus que toi. Sois gentil, Inch'Allah. Et quand je termine, Inch'Allah, la salat, je vais t'acheter des sardines et de la viande, et je t'achète du lait, etc. Mais laisse-moi tranquille, Inch'Allah ta'ala. Après la salat, je te donnerai ce que tu veux. Et on lui ferme la porte, Inch'Allah ta'ala. Naam. Abu Halim, pardon. Cheikh Salam, c'est pas celui-là. Salam alaikum. Est-ce que la femme peut chercher la science sans mahram? Naam. Est-ce que la femme peut chercher la science sans mahram? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, peut chercher la science. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, peut chercher la science. Est-ce que ça veut dire, elle voyage, quitter une ville? Ah, naam. Naam. Si c'est quitter une ville pour aller dans une autre ville qui n'est pas loin, c'est permis. Mais si c'est un voyage, elle va faire un voyage pour aller dans une autre ville qui est loin, naam, et peut-être se mélanger avec des hommes. Peut-être se mélanger avec des hommes. Oui, un internat. Naam. Dans ce cas, je ne conseille pas. Naam, je ne conseille pas. Surtout que, ce qui est plus intéressant, c'est ce que je vais dire. Surtout que, je suis bi'idhnillah ta'ala sûr que ces endroits où il y a un internat et on va demander le ilm, etc., d'après ce que je me suis renseigné, que ça n'a rien à voir avec la salafia. Et que ce sont des gens qui ne sont pas dans le minhaj, qui ne vont pas t'apprendre la vraie aqida. Ils vont t'apprendre seulement l'arabe ou bien le tajwid, mais ils ne vont pas t'apprendre la aqida, la vraie et le minhaj. Non. C'est pour ça qu'Inch'Allah ta'ala, en restant dans notre ville, oui, l'arabe, je savais, non. L'arabe maintenant, alhamdoulilah, il y a même, yani, sur le paltok. Non, il y a des savants dans le paltok, mashallah, qui apprennent l'arabe. Et il y a, yani, en restant à la maison, on peut apprendre, bi'idhnillah ta'ala, l'arabe. Non. Et ça m'a rappelé une chose, qu'Inch'Allah ta'ala, quand vous rentrerez, on rentrera des vacances, c'est-à-dire le mois d'août, quand on vous rentrez des vacances, qu'Inch'Allah ta'ala, je vais donner, Inch'Allah ta'ala, des cours d'arabe. Tayyib. Abu Halima 79, tafadhal. Donc, comme je disais, islamiyat de préférence, pas. Naam. Quand tu vas aller sans mahram, et, yani, ce n'est pas à cause de Aqida ou là, c'est seulement à cause de l'arabe qu'on peut apprendre sans voyager bi'idhnillahi ta'ala. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. Bon, il y a question d'Abou Sirin. Je reviens sur Abou Sirin après celle-là. Ma question est en rapport avec la salat, mais pas avec le cours d'aujourd'hui. D'après ce hadith, aucun non-musulman ne peuple les mosquées par la prière et le rappel sans qu'Allah ne se réjouisse de sa venue. De la même manière qu'on s'est réjoui de l'absent. Ibn Majah, Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse la miséricorde, tire de ce hadith qu'une personne qui n'a pas besoin de travailler ou agir ou pour d'autres raisons, qu'il est raisonnable qu'elle peuple la maison d'Allah ta'ala, qu'il accomplisse des prières et des rappels d'Allah. Ma question, est-ce que l'on peut passer tout ce temps en prière et c'est toujours en deux rak'at, barakallahu fikum, Allah barakallahu fikum wa barakallahu fik wa Allah Allahumma ya'tika matamna indahu, amin. Franchement, il faut que je relise la question, je n'ai pas bien comprise. Non. Déjà le hadith, je ne me souviens pas de ce hadith. Si c'était en arabe, peut-être je l'aurais vite compris. Ça ne fait rien, je le relis Inch'Allah ta'ala. Aucun non-musulman ne peuple les mosquées par la prière et le rappel sans qu'Allah ne se réjouisse sa venue, de la même manière qu'on se réjouit du retour de l'absent. Naam. Cheikh Al-Albani, Allah yirhamou, tire de ce hadith qu'une personne qui n'a pas besoin de travailler ou âgée ou pour d'autres raisons, qu'il est raisonnable qu'elle peuple la maison d'Allah Ta'ala et qu'il accomplisse des prières et des rappels d'Allah. Ma question, est-ce que l'on peut passer tout ce temps en prière? Ici, c'est toujours en deux rak'at, barakallahu fikoum. Naam. Tayyib. Si entre le temps de la prière qui arrive, on peut passer son temps à faire des prières. Naam. Attends, je suis en train de dire une chose ici. Tayyib, accomplisse des prières. Qu'il accomplisse des prières et des rappels. Naam. De toute façon, quand on rentre à la mosquée, quand on rentre à la mosquée, au moins on commence par la prière de la mosquée, au moins les deux rak'at. Ensuite, on est libre. Ensuite, on est libre. On veut faire des prières, ou on veut faire lire, ou bien on veut lire le Coran, ou bien on veut faire des doigts. Je commence par les meilleures choses, par ordre de mérite. Par ordre de mérite. Les meilleures choses chez Allah, parmi ces trois, c'est d'abord faire la prière. Ensuite, lire le Coran, ou bien ensuite, faire les doigts. Yani faire l'adhkar, l'adhkar. Naam. Donc toi, et même tu peux faire les doigts. Tout cela est permis. Tu peux faire par exemple des prières, deux, et tu dis salam alaikum. Deux et salam alaikum. Naam. Deux et salam alaikum. Ensuite, par exemple, tu dis ça suffit. Je vais lire un peu de Coran. Ça suffit. Je vais faire un peu d'adhkar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Je vais faire un peu de doua. Allahumma aghfirli, Allahumma atini kada, Allahumma inni marid fashfini, Allahumma ashfina, wa kada. Naam, tout cela est permis. Naam, tu diversifies d'après, yani ton cœur, il penche vers quoi? Des fois le cœur penche vers la salat, des fois le cœur penche vers les doua. Des fois le cœur penche vers le Coran. Naam. Alhamdulillah. Ya Abba Halima 79 de la Belgique. Naam. Donc comme j'ai dit, c'est d'après le cœur. D'après le cœur, d'après ce qu'on sent dans le cœur. Vous remarquez que des fois, on n'a pas beaucoup de chaleur à faire des nafilas, des prières. Mais on a de la chaleur, par exemple, à lire le Coran. Et des fois, même le Coran, on ne peut pas lire. On n'a pas notre tête avec nous, etc. Mais on fait le siyam, ou bien on fait des doua, et comme ça. Salam alaikum. Je délaisse souvent le chef et le huit. Est-ce grave? Quelle est la signification de cette prière? Min fadlikum. Pour le chef, il faut dire que, comme j'ai dit une fois, il n'y a pas une salat en islam qui s'appelle le chef comme ça. Les gens ont pris l'habitude d'appeler le chef les deux rak'at qu'on fait après l'Aïcha. Dès que quelqu'un termine l'Aïcha, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire le chef. En fait, lisez bien. Dans les livres, vous n'allez pas trouver une salat qui s'appelle le chef. Mais vous allez trouver le witr. Le chef, d'où il vient? Le chef, normalement, les deux rak'at, ce sont les 12 rak'at que le prophète a dit, quiconque, yani, fera ces 12 rak'at et yani, les fera tout le temps, Allah Ta'ala lui construira une maison dans le paradis. Ces deux avant le sobh, c'est-à-dire les deux du fajr, 4 avant le dhuhr, ça fait 6, 2 après le dhuhr, ça fait 8, 2 après le maghrib, ça fait 10, et 2 après le isha, que les gens appellent le chef. Donc maintenant, laissons ces deux rak'at de côté. Parlons du witr. Si quelqu'un ne fait pas le witr tout le temps, cette personne n'est pas bien en islam. D'ailleurs, les ulama n'acceptent même pas son témoignage. Par exemple, je vais me marier, j'ai besoin de deux témoins. Je rapporte un témoin, les gens le connaissent. Ils disent non, celui-là on le connaît, il n'a jamais, il ne fait pas salat l'huître. Donc c'est grave pour quelqu'un qui ne fait pas l'huître. Inna Allaha witrun yuhibbu l'huître. Inna Allaha zadakum salatan. Salat l'huître. Naam, salat l'huître, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé. Ni quand il était chez lui, ni en voyage. Et une prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas même pendant le voyage, c'est un dalil que c'est une prière très importante. Naam, le witr, Allah Ta'ala est witr, il aime le witr. Comment tu fais pas ce qu'il aime? Dix ans que ça arrive, une fois que tu sois vraiment fatigué, malade, tu fais pas le witr et tu dors. disent en une fois. Mais ce n'est pas prendre ça comme habitude. Non, l'habitude c'est de le faire tout le temps. Et de temps en temps, si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. Mais c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna très recommandée. Naam, c'est une sunna très recommandée. C'est plus que les quatre qui sont avant le dhuhr et les deux qui sont avant le dhuhr, etc. Ce sont des rawatib. Le witr, c'est la meilleure, c'est l'une des meilleures des salats recommandées. Naam, où est-ce qu'on est, inshallah ta'ala? Tayyib, qui m'a dit, j'ai une question? Naam. Porte salafia, la question, inshallah. Doha, prépare-toi. Est-il permis de dire Alhamdulillah quand on prie et on éternue? Subhanallah al-Azim, comment est-il permis? Il est conseillé, naam. Quand on éternue, on dit l'une des quatre choses. On dit ou bien Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillah ala kulli hal, ou bien Alhamdulillah Rabbil Alamin, ou bien Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Seulement ces quatre. Quiconque ajoute une chose, il n'y a pas de dalil. Naam. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui a dit Yarhamukallah. Ce n'est pas comme beaucoup de musulmans d'aujourd'hui lui disent quoi? Ils lui disent à tes souhaits, à tes amours. Naam. Ils imitent les kuffars et ils laissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de lui faire le dua que Allah Ta'ala lui fasse la miséricorde, yarhamukallah, il lui dit à tes souhaits et à tes amours. Naam. Il n'a même pas honte de laisser la sunna et d'aller imiter les autres. D'aller imiter les autres. Naam. Et l'autre, il lui dit quoi? Il lui dit yaghfirullahu yaghfirlana lakum, ou bien lui dit yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Naam. Tayyib. Il les a délaissés au point de ne pas dire qu'il les a jamais priés. Naam. Pour celui qui a délaissé le witr, Inch'Allah ta'ala, qu'il le regrette et qu'il commence dès maintenant à faire son witr. Naam. Il dit, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus laisser mon witr. Allah ta'ala est witr, il aime le witr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé le witr. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, je ne vais plus laisser mon witr. Inch'Allah ta'ala, c'est comme ça qu'il doit faire. Doha, tafadhali. Et il est dit, il y a Cheikh Sallam, Cheikh, il y a Cheikh Sallam, dit dans un livre de fiqh que d'après Aïcha, il voit le prophète prier jusqu'au point de ne pas délaisser, et le délaisser au point de ne pas le dire qu'il a prié. Je ne crois pas, s'il parle du witr, je ne crois pas que ce soit un hadith sahih. S'il parle du witr, je ne pense pas que ce hadith soit sahih. Naam. Assalamu alaikum. Les douas dans les soujouds sont-elles permises en une autre langue que l'arabe, dans la prière obligatoire? Certains disent que les douas en une autre langue sont seulement permises dans les prières surérogatoires. Quel est votre avis? Naam. C'est la première fois qu'on me pose cette question et je n'ai jamais lu la réponse à cette question. Inch'Allah ta'ala, je demanderai naam, si c'est permis ou pas. De toute façon, tu as dit quel est votre avis, hein? Mon avis, c'est que ça m'étonnerait que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé cette personne allemande ou l'américaine ou la française ou la chinoise, qu'il n'accepte pas d'elle qu'elle fasse des doigts. Ça, c'est mon avis. Ça m'étonnerait que Allah Ta'ala, qui a fait de cette personne pour qu'elle soit une anglaise, qui n'accepte pas qu'elle parle en anglais, yani donc qu'elle fasse des doigts dans les prières obligatoires. Mais Inch'Allah Ta'ala, ce n'est que mon avis. Naam. Je demanderai Inch'Allah Ta'ala pour être plus sûr. Naam. Oum Abdel Haq, tafadhali. Naam, il reste 5 minutes, Oum Youssef, il reste 5 minutes. Ibn Abd al-Haq, vous avez dit que le prophète alayhi salam priait souvent à même le sol. Est-ce que la sunna est appliquée si on prie sur un sol carrelé par exemple et non pas sur la terre elle-même par rapport à la récompense? Naam. Naam, car le sol carrelé, naam, on l'a trouvé comme ça. Naam, on l'a trouvé comme ça, il y a un carrelage, ikhlas, on prie sur lui inshallah ta'ala pour sentir un peu car ça ressemble au sol. Naam, sentir un peu yani la différence entre quand on fait sur un sol carrelé et quand on fait sur une khumra ou sur un tapis. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est interdit de le faire sur le tapis. Attention, peut-être les gens vont mal comprendre, ils vont dire que c'est pas permis de faire la salat sur un tapis. Surtout de nos jours, il n'y a que les tapis. Mais moi j'ai donné l'exemple quand quelqu'un par exemple est dans un jardin ou là dans un voyage ou là et que c'est l'occasion par exemple qu'il la fasse sur le sable ou là sur la terre, qu'il la fasse comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné sur la boue et l'eau. Naam. Alors qu'il pouvait, imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est prosterné sur l'eau et la boue. S'il avait demandé, il avait dit par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui me donne par exemple un habit pour le mettre? Est-ce que les sahabas ne lui auraient pas donné? C'est sûr qu'il lui aurait donné. Mais c'est pour ça que je dis, on le fait quand l'occasion se présente. Voyez. طيب من الهج 22 تفضل. Une personne malade qui prie en position allongée chez lui peut-elle diriger la prière avec dans les rangs des personnes qui prient debout? Peut-elle diriger la prière avec des gens qui prient assis? Quelles sont les règles de l'imam? Naam. Les règles de l'imam, Inch'Allah ta'ala, on les verra dans yani, le dars qui sera spécialement sur l'imam. Naam. De toute façon, en général, quand quelqu'un, on voit l'imam, comment qu'il est, comment qu'il fait. Si l'imam, quand il commence sa salat, il la commence par exemple tout en étant assis, on doit s'asseoir avec lui. On doit s'asseoir. Mais si par exemple il la commence debout, et en plein salat il lui arrive quelque chose et il s'assoit, on ne s'assoit pas avec lui, on continue debout pour joindre entre les hadiths où il est dit que on doit s'asseoir et où il est dit que on doit rester debout. Pour joindre entre ces deux hadiths, le Cheikh Al-Albani et les autres, Allah yarhamhum jami'an, ont dit, donc la règle c'est que quand l'imam va commencer la prière, on doit faire comme lui, dans la position où il est. Maintenant, si après l'avoir commencé debout, il va la faire assis ou bien sur son flanc allongé, on ne le suit pas. Pourquoi? Parce qu'il a commencé debout et nous on a commencé debout, donc on termine debout. Inch'Allah ta'ala, ça viendra avec beaucoup de détails. Bi'idna azza wa jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le cours sur le livre Al-Albani. Il y a écrit que c'était son front qui s'est noirci par la date. C'est bien ça ou pas? Et doit-on rester dos droit dans la position assise? Minhaj 2. Ce n'est pas son front qui s'est noirci. Naam, ce n'est pas son front qui s'est noirci. Mais c'est la natte qui s'est noirci. C'est la natte. Car le front, on ne peut pas s'habiller d'un front. Mais on dit, je me suis habillé d'une natte. Mais on ne dit pas, je me suis habillé d'un front. C'est pour ça que les compagnons ont dit, min toli me lubis. Parce qu'il s'est beaucoup assis sur cette natte qu'elle est devenue noire. Et ce n'est pas à cause de son front qui est devenu noir. Naam. C'est bien. Doit-on rester dos droit dans la position assise? Naam. Dans la position assise, on reste dos droit. Inch'Allah ta'ala, ça viendra dans le prochain dars. Depuis que j'ai accouché, j'ai des fuites. Om Youssef. Naam. C'est toi qui as dit tout à l'heure, il faut que les questions soient dans la salat. Ça? طيب je crois que dans la salle j'ai accouché j'ai des fuites urinaires dès que j'éternue quand j'ai fait recours quand il qu'en est-il pour ma prière barakallahu fikoum doit couper ma salat ou pas طيب depuis que j'ai accouché j'ai des fuites urinaires dès que j'éternue quand je fais recours qu'en est-il pour ma prière barakallahu fikoum dois-je couper ma salat ou pas naam L'éternuement, si tu le fais de temps en temps il vient. Quand il vient, et quand on éternue, s'il y a quelque chose qui sort, on doit refaire sa salat. Mais si c'est une maladie qui a fait que maintenant on éternue très souvent j'éternue, je ne peux pas me retenir. À chaque fois que j'éternue, il y a quelque chose qui coule, des fuites urinaires. Dans ce cas, tu fais seulement les ablutions juste avant de rentrer dans la salat. Et quand tu rentres, s'il y a des choses qui coulent, ça ne fait rien. À condition que les éternuements soient quoi ? Soient des choses yani, qui te reviennent très souvent. C'est presque une maladie. Mais si quelqu'un éternue seulement comme ça de temps en temps, et aujourd'hui il a éternué, il a senti quelque chose qui est sorti, il a senti quelque chose, il arrête sa salat et il va refaire les ablutions. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Non. Attends, Abou Céline, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas posé de questions. Abou Abdel Malik, t'as pas de Bon, le temps qu'il écrive. Salam alaikum. Est-ce qu'il est vrai que le meilleur livre de fiqh, le plus détaillé, et qui ne s'attache à aucun madhab, est Nail Autar de Shaukani? Non. Nail Autar. C'est pas un livre de fiqh, c'est un livre d'explication de hadith. Et si tu as allé suivre ce livre pour prendre le fiqh, à l'intérieur tu vas plus te retrouver. C'est pour ça que s'il fallait lire un livre de Shaukani pour le fiqh, dans ce cas, il faut lire quoi? Dans ce cas, il faut lire Sayl al-Jarrar. المتدفق على حدائق الأزهار سيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4 tomes celui-là mashallah tu peux prendre de lui le fiqh naam il est très clair et il te donne le fiqh tandis que l'autre c'est une explication des hadiths donc c'est un peu yani vague etc tu vas pas te retrouver bi-idhnillah azza wa jal naam Abu Abdel Malik, si nous voulons faire une œuvre et que nous nous rappelons de bien faire la niyyah, c'est 100% pour Allah. Et tel quand et comme, tel, tant que nous la changeons avant d'accomplir cette œuvre, barakallahu fikoum. Taïb, je ne l'ai pas bien comprise, laisse-moi relire une deuxième fois. Ma question commence plus haut. Ah, d'accord, je n'ai pas vu. Parfois, nous faisons des œuvres et nous n'avons pas le temps d'y penser. Alors, est-ce que cette œuvre est acceptée comme telle, sachant que nous avons cette certitude dans le cœur? Et si nous voulons faire une œuvre et que nous nous rappelons de bien faire l'aliyah, que c'est 100% pour Allah. Et tel compté comme tel que nous la changeons avant d'accomplir cette œuvre. C'est dommage, je n'ai pas bien comprise. Mais quand quelqu'un fait la niya, il dit par exemple cette chose, je vais la donner fisabillah. Ensuite, il a oublié. Ensuite, il la sort après une semaine ou là, et il la donne. C'est toujours la même niya. Tayyib, naam, au micro c'est mieux. Tafadhal Abu Abdel Malik, tafadhal. مرحبا بك تفضل فوز لهم ميكرو ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع. نعم. Ma question est en fait, je sais qu'elle n'est pas très très compréhensible, yani, comme ça, la lision. Non, ma question c'est, yani, Cheikh, yani, nous savons très très bien que toutes les bonnes actions doivent être faites pour Allah, Jalla wa Ala. C'est pour cela d'ailleurs que nous disons La ilaha illallah. Parfois nous faisons des œuvres et nous n'avons pas le temps d'y penser. C'est-à-dire nous n'avons pas le temps de vraiment nous remettre dans la tête que attention, ça doit être fait pour Allah, chaque chose, yani, à chaque chose. C'est-à-dire nous n'avons pas le temps d'y penser. Parfois nous faisons des œuvres et nous n'avons pas le temps d'y penser. Alors est-ce que cette œuvre est acceptée comme telle, sachant que nous avons cette certitude dans le cœur? C'est-à-dire le fait qu'on n'a pas toujours le temps d'y penser tout de suite sur le fait même, yani, est-ce que cette œuvre elle est quand même comptée, yani, pour Allah à 100%, sachant que, yani, on est sûr dans notre cœur que cette œuvre doit être faite pour Allah. Et si nous voulons faire une œuvre et que nous nous rappelons de bien faire la niya, que c'est 100% pour Allah. Yani, on veut faire ننوي أن هذا العمل لله جل وعلا. ف يعني et qu'on se rappelle avant de faire cette chose. يعني par exemple on veut la faire, on veut faire cette œuvre, mais يعني nous nous rappelons pas tout de suite que attention il faut mettre la niya pour Allah. Et donc et que nous nous rappelons et que nous remettons يعني la niya à 100% pour Allah. Est-ce que يعني elle est comptée, yani, comme telle, yani, à 100% pour Allah, tant que nous changeons la niya avant d'accomplir cette œuvre. Barakallahu fikum. Donc je voudrais en résumé savoir si nos actions elles sont acceptées telles à 100% pour Allah, si nous ne pensons pas au moment même que c'est 100% pour Allah, mais que nous savons dans notre cœur que ça doit être fait pour Allah, et également yani, si nous voulons faire une œuvre et que nous nous rappelons juste avant de bien faire la niya pour Allah, est-elle comptée comme telle tant que nous la changeons avant d'accomplir cette œuvre? Barakallahu fikum. Yani, an nuthbitu hadhihi an-niyya qabla العمل يعني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ استغفر الله واتوب اليه. في صوت؟ الحمد لله. bon, celui qui avait posé la question, premièrement je me rappelle plus c'est qui. Et deuxièmement, je n'ai rien entendu puisque je me suis trouvé déconnecté. Qui sait pour qu'il reprenne le micro, Inch'Allah? Qui sait? Inch'Allah Ta'ala, je vais lui donner le micro. Tafadhal. Taïf, je crois qu'il n'est pas là. Je crois que cette personne n'est pas là. C'est le frère Abu Abdel Malik. Taïf, Abu Abdel Malik, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, Abu Abdel Malik? Je le vois pas dans la liste. Ceux qui ont levé la main, il n'y a pas Abou Abdel Malik. Jamal, Diallo, Ayoub, Maïsa, Abdillah, Abou Abdel Al-Firansi, Mohamed, Abou Houdaïfa, Nathan, c'est tout. Taïb. Alors on passe à Jamal 38. Fazal. Salam alaikum. Alaikum salam. Je voudrais savoir si vous pensez. Je voudrais savoir, vous pensez quoi du jilbab pour les femmes qui vivent en France? Est-ce qu'il est obligatoire ou bien un foulard et une robe suffit? Donnez-moi le détail, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le frère a des problèmes de connexion. Abou Abdel Malik Yachir. Inch'Allah Ta'ala. Taïb, quand il revient, Inch'Allah Ta'ala, vous m'en faites part. Elle dit, que pensez-vous du jilbab en France? Réponse. Le jilbab a le même jugement en France, en Amérique et en Israël. Où on est, la femme doit mettre le djilbab. C'est l'habit le plus sûr, c'est le plus vrai. C'est, quand elle met le djilbab, elle est, inshallah ta'ala, dans la perfection en ce qui concerne l'habit islamique, l'habit musulman. Et elle a fait ce que Allah ta'ala a cité dans le Coran. Ce que Allah ta'ala a cité dans le Coran. Quant au foulard et la robe, ce n'est pas un vêtement islamique. Ce n'est pas quelque chose de shara'i. La robe, puis un foulard sur la tête, ce n'est pas quelque chose de shara'i. Si une personne va dire, mais c'est difficile en France, mais les gens, etc., et les racistes, et ceci, et cela, non, la réponse sera très vite et très simple. Qui t'a obligé à rester en France? Et qui t'a lié les mains avec les chaînes pour te dire reste en France? Non, tu vas dans un pays où tu peux mettre ce que Allah Ta'ala t'a ordonné de mettre. C'est pour ça que les ulama disent peut rester dans un pays de coffre. S'il est dans le besoin, la personne qui, à condition, fait son dîn, peut faire ce qu'Allah a dit. Maintenant, quand je suis dans un pays où il me dit c'est interdit de mettre le djilbab, ensuite il va me dire c'est interdit de mettre le foulard, ensuite c'est interdit de je ne sais pas quoi, pourquoi vais-je vivre moi entre des gens qui m'interdisent ce que Allah Ta'ala m'a ordonné de faire? Pourquoi? Quelle est la raison? Naam. C'est pour ça qu'inshallah ta'ala, il faut que la femme, yani, fasse des efforts pour aller vers le djilbab. Il faut qu'elle fasse des efforts pour qu'elle aille vers le djilbab, car mettre le djilbab, c'est ravir Allah. Et ravir Allah, même si tout le monde est en colère contre moi, moi je m'en fous. L'essentiel, j'ai ravi Allah, celui que j'adore, celui qui m'a créé. Je le ravis. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, ça se trouve dans le Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, il a dit, je donne ce sens, il a dit, quiconque veut ravir les gens au détriment d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui et fera de sorte que les gens ne soient pas ravis de lui. Et quiconque fait ravir Allah au détriment des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il est ravi de lui, et deuxièmement, il va faire que les gens soient ravis de lui. Naam. Je vis pour Allah, je ne vis pas pour les gens. Je ne vis pas pour les gens. Si c'est vraiment difficile, alors j'essaie de quitter l'endroit où c'est difficile pour aller dans un endroit où c'est facile. Et l'endroit où c'est facile, il n'y a pas comme le pays musulman, où tu ne sens pas de complexe. Il n'y a pas des gens qui te regardent à travers. Il n'y a pas des gens qui chuchotent des choses quand tu passes. Il n'y a pas des gens qui font des clignotants. Il n'y a pas des gens qui t'insultent. Il n'y a pas des gens qui font de sorte que je me sens pas chez moi. Je me sens faible. Ou qui me disent, va chez toi. Ou alors c'est pire s'ils vont me dire, dégage ce pays. S'ils me disent comme ça, je vais tomber malade. Je vais tomber malade et je leur laisse leur pays. Et je vais habiter dans une tente. Je vais dans une tente, dans un pays musulman. Allah yuffakum, Allah yahdikum, Allah subhanahu wa ta'ala yifta' alikum bil hijra an qarib. Allah yifta' alikum bil hijra. Mettez un peu d'argent, inshallah ta'ala, et laissez-leur leur pays et leur coffre. Laissez-leur leur pays et leur coffre, et leur bière et leur drogue, et leur femme de joie, et partez, inshallah, dans un pays musulman, où vous entendez l'adhan, masha'Allah. Masha'Allah, moi ça m'étonnerait que je puisse vivre dans un pays où j'entends pas l'adhan. Allahu Akbar. Adhan, quand tu l'entends, tu sens un peu la chair de poule. Naam. Tu sens ton cœur qui commence à battre. L'adhan, Allahu Akbar. Alors que c'est interdit, je vis dans un pays où j'entends même pas l'adhan. Naam. Allah yuwaffiqkum. Allah yuwaffiqkum. Diallo 36, tafadhal. On m'a dit, faut. Jamal, j'ai pas compris. Allah. On m'a dit faut-il donner envie aux mécréants de rentrer dans l'islam? La phrase n'est pas bien comprise. Il reste 10 minutes, inshallah ta'ala. Diallo, j'attends ta question. Om Ayyub, prépare-toi. Naam, ceux qui t'ont dit, il faut attirer le croyant pour qu'il rentre en islam. Naam, ceux qui t'ont dit cela ne se sont pas trompés. Mais il faut attirer le croyant en faisant le permis. C'est pas en faisant quelque chose qui n'est pas de l'islam. Imagine que je dise, pour attirer les croyants, il faut que je fasse habiller ma femme avec une mini-jupe. Comme ça, ils vont dire, ceux-là, ce sont des musulmans, mais ce sont, mashallah, ils sont civilisés, ils sont mondains, ils sont, mashallah, très cultivés. Regarde celui-là, il n'est pas complexé. Sa femme avec une mini-jupe et la cigarette. Mashallah, celui-là, vraiment, il est bien. Naam, ce n'est pas comme ça. Et toi, tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand tu fais ce qu'il t'a dit de faire, si les autres acceptent de toi et viennent vers l'islam, mashallah, ce sont eux qui ont gagné. Naam. S'ils ne veulent pas, ce sont eux qui ont perdu, ce n'est pas toi. Toi, tu as gagné le fait d'avoir obéi à Allah et de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Mais, quand tu fais ce qu'il t'a dit de faire, quand la femme met le djilbab, avec le djilbab, il lui est demandé d'essayer d'attirer. En parlant, yani avec sagesse, en souriant aux gens, en invitant les gens, en ceci et cela. Naam. Des fois, les gens, quand ils sentent la sincérité chez toi, même si tu es avec le djilbab, ils vont t'aimer. Et s'ils ne sentent pas la sincérité en toi, avec la mini-jupe, ils vont te détester. Et ils vont être contre toi. Ils vont même te dire, toi tu es musulmane, pourquoi tu mets la mini-jupe? Applique ton dîme. Naam, ils vont être contre toi des fois. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Tayyib, Diallo n'est pas là. Ayyub, tafadhali. Ayyub 93. S'il vous plaît, répondez-moi quelques mots afin de bien être avec ma famille. Abu Abdel Malik, je n'ai pas entendu ta question. Si tu es là, je te rends le micro pour la poser. Je n'ai entendu aucun mot de ta question. Si tu veux, tu prends le micro, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, maintenant je te vois, je t'enlève le rouge et je te donne le micro, Inch'Allah. Tafadhal Abu Abdel Malik. Tafadhal Abu Abdel Malik. J'attends, Inch'Allah Ta'ala. Nous sommes dans les 5 dernières minutes. Tafadhal. Naam. Lorsque nous voulons faire une bonne action, et que nous savons que toutes les bonnes actions doivent être faites pour Allah, mais qu'au moment où on l'a fait, nous n'avons pas le temps de penser à cela, elle compte à 100% pour Allah, sachant que nous avons cette certitude dans le cœur qui est que tout doit être fait pour Allah. Cheikhana la ilaha illallah. Observer, je ne sais pas si vous me lisez ou bien si c'est volontaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire si c'est volontaire. Non. Écoute, mon frère Abu Abdel Malik. Quand c'est une chose comme ça en général, on veut faire du bien, comme tu as dit toi, comme ça en général, on veut le faire pour Allah. Mais quand on allait, on n'a pas pensé à la même seconde, mais on a fait comme ça en général. En général, parce qu'on fait des choses, en général les bonnes œuvres, on les fait pour Allah, ça compte. Mais quand c'est quelque chose de particulier, par exemple, tu dois faire sortir cet argent, par exemple, ou là tu dois faire sortir cette chose, par exemple, cet argent, c'est à cause de zakat. Cet argent, c'est à cause de... Yani, c'est précis. Quand c'est précis, il y a une chose précise pour laquelle tu sors, par exemple, cet argent. Et que, au moment de sortir, tu n'as pas la niya de cette chose, elle n'est pas acceptée. Mais quand tu fais comme ça, en général, tu donnes comme ça de l'argent, fi sabilillah ou là, en général, le fait, yani, d'avoir donné, en se basant sur la règle générale que je donne pour Allah, Inch'Allah Ta'ala, c'est accepté. Naam. À condition que ça soit pas une chose, comme j'ai dit tout à l'heure, précise. À condition que ça soit pas une chose précise. C'est-à-dire, cet argent n'est pas, par exemple, pour la zakat. Si c'est pour la zakat, je dois avoir dans la niyyah ces zakat. Naam. Si par exemple je fais manger, je te donne un exemple. J'appelle comme ça quelqu'un, je le fais manger, etc., etc. En se basant sur la règle générale que je fais ça pour Allah. C'est accepté. Mais si j'avais par exemple, j'avais une kafara, j'avais une expiation. Quand on a une expiation, on doit faire manger 10 bonhommes. Et j'ai fait manger par exemple 5 bonhommes sans avoir la niya. Ensuite, quand ils ont mangé, je me dis, ah, je vais compter ces 5 personnes avec les 10 de la kafara. Ça ne compte pas. Parce que c'est quelque chose de particulier, de spécial qu'il lui faut la niya. Mais quand on fait comme ça quelque chose, en général, inshallah ta'ala, c'est accepté. Naam. Parfois ça va vite et on n'y pense pas. Naam. Entre parenthèses, et c'est pourquoi, Akhi Abdul Malik, c'est pourquoi, yani, il est demandé d'avoir le cœur très éveillé pour essayer de faire assister la niya dans chaque action. Naam. C'est pourquoi, yani, le croyant, il lui est demandé d'avoir un cœur éveillé. Naam. Pour avoir, inshallah ta'ala, yani, la niya dans chaque action. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On avait dit que alhamdoulillah, naam. Abu Hudayfa, 76 100, tafadhal. Pour Salafi, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Salam alaykoum, Cheikhana, qu'Allah vous préserve. Amen. Peut-on faire des doigts de la pluie quand il pleut ou autre pendant le soujoud? Il y a combien de taslim dans Salat Janaza quand je vois toujours des prières faire qu'un taslim? Naam. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Faire des doigts de la pluie quand il pleut ou autre. J'ai pas compris ce que ça veut dire doigts de la pluie. Peut-on faire des doigts de la pluie quand il pleut ou autre pendant le soujoud? Naam. Je ne connais pas le doigt de la pluie. Le doigt de la pluie, si c'est pour faire tomber la pluie, le doigt de faire tomber la pluie, on le fait ou bien dans un moussalla, naam. Ah, s'il pleut, on est au soujoud. On dit Allahumma sayyib al-nafi'an. Ce n'est pas interdit. Naam. Ce n'est pas interdit. On se rappelle qu'il pleut, on dit pas Allahumma sayyib al-nafi'an. Je ne sais pas quelque chose qui interdirait cela. Car tu as fait un dua. Et ce dua, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il ne l'a pas dit spécialement dans le soujoud. Mais il n'a pas dit de ne pas le dire. Aussi n'a-t-il pas dit de ne pas le dire. Naam. Dans Salat Janaza, le plus sûr, c'est qu'il y a deux taslim. Dans Salat Janaza, naam, on peut faire un taslim, c'est juste. Ça se fait. Et on peut faire aussi deux. Naam. C'est pour ça qu'on peut des fois faire un, des fois faire deux. Et quand on fait deux taslim dans Salat Janaza, on le fait à voix basse. Naam. Ayoub 93. Abu Hudayfa ne veut pas poser sa question. Non, c'est lui. Fika barakallah. Ayoub 93. Tafadhali, parce que je vais vite fermer la salle. Il est déjà une heure passée depuis longtemps. Tafadhali. Salam alaikum. Ma mère travaille. Alaikum salam. Et elle se réveille très tôt le matin. Et le Isha est très tard. Est-ce possible qu'elle dorme et prie l'Aïcha quand elle se réveille? Barakallahu fikoum. Non, ce n'est pas possible. Si la moitié de la nuit est passée, l'Aïcha n'est plus valable. C'est-à-dire que si elle fait l'Aïcha après que la moitié de la nuit est passée, ça veut dire qu'elle l'a fait avec des péchés. Naam, elle a des péchés parce que son heure est terminée. Naam. Salat l'Aïcha se termine après la moitié de la nuit. Donc elle ne doit pas, Inch'Allah ta'ala, dormir jusqu'à ce qu'elle fasse l'Aïcha. Dès qu'elle entend le adhan de l'Aïcha, la première minutes, elle commence déjà à faire la salat de l'Aïcha. Naam. Oumaysa, tafadhali. Oum Abdillah 16, tafadhali. Comme ça, il reste 3. Abu Abdullah Firansi, Nathan et Aya 01. Salam alaikum, alaikum salam. Lors de l'Oudo, peut-on faire dessouillage de la tête sur un foulard qui est noué autour de la tête? Qu'en est-il si on le fait souvent et sans raison? Aussi, qu'en est-il du Maghreb? Barakallahu fikoum. Qu'en est-il du Maghreb? Je n'ai pas compris que ça veut dire qu'en est-il du Maghreb. Mais pour le foulard, une femme n'essuie sur le foulard que quand il y a une raison. Ce n'est pas sans raison. Non, quand il y a une raison, par exemple, il y a des hommes en face d'elle et elle n'a plus comment faire. Elle essuie dessus. Ou bien, elle vient de mettre le henné. Elle vient de mettre le henné. Pour ne pas l'enlever, elle va essuyer dessus. Sinon, elle ne peut pas essuyer comme ça sans raison. Non. Ensuite, quel est le temps du Maghreb? Quel est le temps du Maghreb? Naam, le Maghreb commence quand le soleil se couche et se termine quand il fait dehors tout noir. Naam, classe, il n'y a plus la rougeur à l'horizon, tout est devenu noir. La salat du Maghreb est terminée et c'est le Isha qui vient de rentrer. Naam. Oumaysa, salam alaikum, salam alaikum. Une femme, je commence par enlever ce à qui j'ai répondu. Hein? Une femme peut-elle faire salat avec des chaussettes fines où l'on voit à peine ses pieds? Et aussi peut-on faire le masque sur des soquettes? Barakallahu fikum, hayyakumullah. Naam, une femme, quand elle fait la salat, si elle a une robe ou le vêtement avec lequel elle fait la salat, si ce vêtement touche le sol, elle n'a pas besoin de chaussettes. Si ce vêtement touche le sol, elle n'a pas besoin de chaussettes. Maintenant, si les chaussettes sont à peine, comme tu dis toi, à peine, yani elle montre à peine les pieds, si inshallah ta'ala valable. Non. Car il y a des ulama qui ont dit les pieds ne sont pas la awra. Donc, celle-là au moins, elle a des chaussettes fines. Non. Mais si, comme j'ai dit, le vêtement touche le sol, elle n'a pas besoin de chaussettes, Inch'Allah ta'ala. Et le masque, on peut le mettre sur des soquettes. C'est quoi soquette? C'est quoi la différence soquette et chaussettes? C'est quoi la différence entre soquette et chaussettes? Tout ce qui couvre les pieds, au maïs, tout ce qui couvre les pieds, en bas de cheville, hein? Comme ma cheville. Naam. Tout ce qui couvre les pieds, que ça soit au-dessus des chevilles ou pas, on peut mettre le masque dessus. Naam. Ce n'est pas une condition nécessaire que les chaussettes ou la soquette hindou, naam, doivent être au-dessus des chevilles. Ce n'est pas une condition nécessaire. Naam. Ummu Abdillah 16. Aya, inshallah ta'ala, c'est la dernière ou là le dernier. Naam. Oum Abdillah 16, tafadhali. J'ai déjà posé. Alhamdulillah. Abu Abdillah Firansi, tafadhal. Comme ça, il reste 2, inshallah. أبو عبد الله الفرنسي تفضل. Il reste Nathan et Aya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. j'ai lu dans un livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Ahkam al-Janaiz, qui n'est pas permis de se faire enterrer dans un autre pays que celui où l'on est décédé. Il cite Al-Nawawi qui dit, si la personne demande dans son testament de se faire enterrer dans un pays, il n'est pas permis. Sah. Ma question est, que doit-on faire sachant que l'on est dans un pays mécréant et qu'il n'est pas permis de se faire enterrer avec les mécréants? Naam. Dans la sunna, je parle dans la sunna en islam, quand quelqu'un meurt dans un endroit, disons une ville, il doit être enterré dans cette ville. S'il meurt à Marseille par exemple, on ne va pas l'enterrer à Lyon ou je ne sais pas où. Il doit être enterré à Marseille. Donc, je parle en général quand on est dans un pays musulman, bien sûr. S'il meurt à Alger, on ne va pas le prendre à Oran. Alors, on va l'enterrer à Alger. Maintenant, s'il meurt dans un pays mécréant, pour ne pas être enterré avec des mécréants, on fait de sorte qu'il parte dans son pays d'origine. Mais il y a une chose qui est très importante. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est difficile. C'est difficile quand quelqu'un meurt dans un pays mécréant. Naam, ce n'est pas facile. Naam. Car il lui était demandé qu'il quitte ce pays pour mourir dans un pays musulman. Je ne souhaite à personne de mes frères et de mes sœurs qu'il meure dans un pays non musulman. Naam. Car, comme tout le monde sait que, yani, quoique, yani, moi si on m'enterre à côté d'un mécréant, l'essentiel ce sont mes actions. Naam. Si moi je priais, j'adorais Allah Ta'ala, etc., je n'aurai pas le même sort que lui. Ni lui, il n'aura le même sort que moi. Chacun d'après ses actions. Mais en général, on doit faire tout notre possible pour ne pas mourir dans un pays de mécréants. Naam. On doit faire tout notre possible pour ne pas mourir dans un pays de mécréants. Maintenant, je pense que dans tous les pays de kofre, il y a, Wallahu ta'ala a'lam, il y a des endroits où on enterre les musulmans. Naam. Je crois qu'il y a des endroits où on enterre des musulmans. Seulement des musulmans. Il y a des cimetières de musulmans. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Aya tafadhal. Aya. Abu Abdullah, continue. Oui, Cheikh, il y a, mais qu'est-ce qu'il y a? Naam, ces cimetières sont mélangés. Mécréants et musulmans. Naam. De toute façon, ces sont mélangés, mais il y a des côtés où il y a seulement des musulmans. Je suis sûr que c'est pas mélangé un kafir et un musulman. Il y a des côtés, un côté c'est musulman, un côté c'est mécréant. Par un petit chemin de terre. Naam, mais les musulmans, ils sont de l'autre côté. Les musulmans sont de l'autre côté. Abu Abdullah Firanzi, pour que tu tombes pas dans ce problème, prépare un peu d'argent et viens, Inch'Allah, être mon voisin en Algérie. Prépare de l'argent, Inch'Allah, et viens être mon voisin en Algérie. Ensuite, quand tu rentreras dans le Partok, on écrira Abu Abdullah al-Jazairi. Abu Abdullah al-Jazairi. Prépare un peu d'argent, Inch'Allah, et téléphone-moi, on t'achète, Inch'Allah Ta'ala, un appartement pas loin où j'habite. Naam. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, tu sortiras de ce problème bi'idnillah azza wa jal. Naam. Inch'Allah Ta'ala, je te ferai des doigts. Allahumma wafiq akhana أبا عبد الله الفرنسي وكل من هو معنا في القاعة في هذه الأمسية وفقه للهجرة يا رب العالمين ووفقه حتى يموت في بلد مسلم ونحن معهم يا رب العالمين. طيب آية تفضلي. آمين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله. Je voudrais savoir, car certains disent que la femme doit prier avec les gants et d'autres non. Donc je voudrais savoir si la femme doit prier avec les gants ou non. Et si elle ne doit pas prier avec les gants, avoir un délil pour convaincre les sœurs qui le font, barakallahu fikum. Naam. Jazakallah khair ya Abbasirin. Il n'y a aucun délil qui dit que la femme doit faire la salat avec les gants. Naam. Il n'y a aucun dalil qui dit que elle doit faire la salat avec les gants. Bien au contraire, celui qui dit que la femme, même quand elle est seule sans les hommes, doit mettre les gants pour faire la salat, celui-là, on lui demande de donner le dalil. Naam. On n'a jamais lu ou entendu qu'une femme, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire la prière, allait mettre les gants dans ses mains pour faire la prière. On n'a jamais entendu cela. Alors qu'en est-il si on prend l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit « Ni son visage ni son main ne sont aura ». Imaginez une femme qui a pris l'avis de l'Albani que son visage et les mains ne sont pas aura. Et maintenant, avant de faire la salat, elle va acheter les gants pour les mettre pour faire la salat. Ça n'a jamais existé. Celui qui dit, et j'ai lu même des grands ulama dans leur fatwa qui disent que elle n'est pas obligée de mettre les gants. Naam. Vous trouvez ça, je crois, dans un livre qui s'appelle Fatawa Nisa. Fatawa Nisa. Où c'est groupé les fatawa de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, Cheikh Fawzan, et tout ça, ils sont à l'intérieur. Il y a une fatwa où on dit, est-ce que l'homme, la femme, peut faire la prière sans les gants? Il dit, naam. Elle fait la prière sans les gants. Naam. Et moi, je vous dis, quiconque dit qu'une femme, pour faire la prière, il lui faut les gants, que cette personne nous ramène le dalil, inshallah ta'ala. Que cette personne nous ramène le dalil, et ce n'est pas à nous de lui donner le dalil qu'elle ne met pas les gants. Car c'est lui qui est venu avec une chose en plus. C'est lui qui a ajouté, il a dit, il faut les gants. Donc on lui dit, donne le dalil qu'il faut les gants. S'il faut les gants, alors pourquoi ne faudrait-il pas aussi qu'elle cache son visage, s'il faut les gants? Donc, on va lui dire, puisque tu as mis les gants, tu dois mettre aussi le niqab, ou bien le sitar. Tu ne fais pas la prière à visage découvert. Et tout le monde sait que la femme n'a pas le droit de se couvrir le visage quand elle fait la prière. Sauf s'il y a des hommes. Wallahu ta'ala a'lam. Ma ton tafadzal, Smaïn, on termine avec toi, inshallah, tafadzal.